Voilà, bonjour et bienvenue à ce colloque intitulé « Comment humaniser la fin de vie, contribution chrétienne au désir de bien vivre et bien mourir ». Je suis Bruno Sato, jésuite, je suis responsable du département d'éthique biomédicale et je suis très heureux de vous accueillir ici pour un colloque avec un, on pourrait dire, un premier titre ambitieux, « Comment humaniser la fin de vie ». Et un sous-titre plus modeste, contribution, voilà, contribution chrétienne, c'est déjà pas mal, contribution chrétienne au désir de bien vivre et de bien mourir. C'est une joie de le faire en lien avec l'Institut catholique de Paris, dont nous avons trois enseignants, Catherine Finot, Marie-Dominique Trébuchet et Dominique Grenner. Merci beaucoup de vous être associés voilà, à cette démarche. On est très heureux de vous soyez là et j'étais très heureux de travailler avec vous. Il est toujours bien de s'atteler à des tâches communes, surtout sur des sujets aussi délicats et importants pour aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi ce thème et l'avoir ainsi formulé? Il me semble en raison du double constat, d'abord que notre rapport commun à la fin de vie, à la mort, ne cesse de changer, et aussi en raison de la prédominance du débat éthique sur les questions de fin de vie, notamment sur la possibilité ou non de l'euthanasie. Notre rapport commun à la fin de vie ne cesse de changer. Dans un contexte d'allongement de l'espérance de vie, de reconfiguration des solidarités familiales et de redéfinition des politiques de santé publique, les conditions de la fin de vie préoccupent, inquiètent de plus en plus, non seulement les personnes qui perçoivent avec plus d'acuité qu'elles sont en fin de vie, parce qu'elles ont un âge avancé ou une maladie grave, mais aussi toutes les personnes qui anticipent, parfois avec crainte, les conditions de leur fin de vie en raison de scandales ou de débats actuels sur la fin de vie. Notre rapport commun à la fin de vie a changé parce que la médecine est devenue plus efficace, notamment dans la lutte contre la souffrance, parce que nous concevons aussi de plus en plus notre vie comme un projet personnel, tout en accordant une grande importance aux relations de parenté, d'amitié, qui en font la saveur. Désormais, la lutte contre la souffrance, l'accomplissement du projet de vie personnel et la qualité d'accompagnement deviennent des références centrales. Notre rapport commun à la fin de vie a changé également parce que les institutions porteuses de sens, comme les religions, les grandes sagesses, semblent moins soutenir collectivement des significations et des attitudes communes face à la souffrance, face à la diminution des capacités, à la confrontation à la mort d'autrui et à l'imagination de la sienne. Il est fini le temps où la petite église de village accompagnait la naissance par le baptême, l'alliance par le mariage, le deuil par les obsèques célébrées dans l'espérance collective d'un Dieu-homme vainqueur de la mort. Il n'y a plus un art commun d'accompagner la vie et ni d'accompagner la fin de vie. Le questionnement sur la mort est surtout soutenu aujourd'hui par l'interrogation éthique sur ce qu'il est possible de faire ou non. Doit-on autoriser ou non l'euthanasie? Et nous voudrions sortir de cette polarisation. Car la polarisation du débat sur un geste euthanasique qui devrait être assumé par le corps médical ou par une autre instance, comme en Suisse, focalise sur le permis, le défendu, en mettant en ce sens en sourdine ou en ne voyant pas l'ensemble des ressources spirituelles, intellectuelles, sociales, toutes les solidarités qui soutiennent un art de bien vivre et qui nous permettent ensemble d'affronter l'épreuve de la mort et du deuil. Focaliser sur la possibilité ou non de nouveaux droits, nous risquons de ne plus voir la richesse déployée dans le soin et l'accompagnement, ainsi que les valeurs qu'ils engagent. Alors nous n'avons pas souhaité un énième débat sur savoir si le droit à l'assistance médicale au suicide était une bonne chose ou non, mais nous avons souhaité explorer comment les convictions chrétiennes, les représentations chrétiennes de la mort, les solidarités chrétiennes, les pratiques de soins permettaient de répondre autrement à cette question. La foi en la résurrection et cette préoccupation de la vie après la mort ne semble plus donner collectivement forme et sens à la vie et à la vie éventuelle après la mort. Dans l'adaptation cinématographique du roman de Mélisse de Kerangal, Réparer les vivants, qui fait le récit d'une transplantation cardiaque, l'actrice Emmanuelle Seignier joue le rôle de la mère de Simon, ce jeune homme décédé d'un accident de la route et auquel va être prélevé un cœur afin qu'une autre personne puisse vivre un peu mieux, un peu plus. Alors que l'actrice est interrogée sur l'expérience d'avoir le cœur d'une autre personne, elle confie plutôt son angoisse de la mort. « Moi, j'ai peur de la mort. C'est désespérant de penser qu'on va tous mourir. Parfois, je me dis que je serai prête à tout pour avoir la vie éternelle, même à signer un pacte avec le diable. » Fin de citation. C'est étrange. Ce n'est pas parce que l'on peut réparer les vivants que l'interrogation sur la mort cesse pour autant, mais elle est reconfigurée. Il importe donc d'explorer d'autres voies. S'il est important de développer une éthique de la fin de vie, notamment en nous interrogeant sur la manière avec laquelle est vécue la nouvelle loi Leonetti Claes, nous le ferons lors du colloque du 10 décembre, il nous est apparu nécessaire de chercher à la fois comment les chrétiens pourraient actualiser pour eux-mêmes la longue tradition de mobilisation des significations religieuses et des ressources religieuses personnelles, collectives, face à la mort, en ayant bien conscience, évidemment, des écueils de la prédication de la peur, ça a duré un certain temps, et en se demandant comment cela pourrait parler, non seulement aux chrétiens, mais à l'ensemble de la société. Le défi est donc de voir comment les chrétiens peuvent mobiliser aujourd'hui les ressources de la foi, de l'espérance, de la charité, pour eux-mêmes et pour toute la société. Quelles ressources de foi, de pensée, d'imagination, de signification, d'engagement solidaire pouvons-nous déployer. À la fin de sa monumentale histoire de la mort en Occident de 1300 à nos jours, dont la première édition est parue au début des années 80, Michel Vauvel disait, il a fait une grande fresque historique sur les significations de la mort, la manière avec laquelle la mort était pensée, vécue. Je cite, « Au début de notre parcours, les choses étaient plus simples. » C'est tout à fait à la fin du livre, c'est sa conclusion. « Au début de notre parcours, les choses étaient plus simples, en apparence du moins. » En frappant les hommes, la peste noire et ses séquelles suscitaient une sensibilité pour tout un siècle. Nous avons triomphé de ces fatalités lourdes, de ces déterminismes oppressants avec lesquels les hommes ont eu à se débattre si longtemps. Nous voici confrontés à nos responsabilités collectives. La mort, devenue le révélateur métaphorique du mal de vivre, nous interpelle pour changer le monde. La crise de la mort aujourd'hui prend figure d'un malaise dans la société, sa redécouverte, peut-être l'une des voies d'une prise de conscience. On ne saurait faire l'économie d'un humanisme, d'un nouvel humanisme pour notre temps. Eh bien, nous souhaitons contribuer à notre petite mesure à, peut-être, en tout cas, un nouvel humanisme chrétien face aux défis de la vieillesse et de la fin de vie. Le colloque va se déployer, on pourrait dire, depuis les richesses des ressources personnelles jusqu'aux significations sociales et politiques les plus larges. Voilà. C'est une logique d'exposé, mais ce n'est cependant pas une séquence de choses qu'on empilerait les unes derrière les autres, parce que le plus intime du rapport personnel à la mort est toujours conditionné par les symbolisations, les pensées, les convictions, les attitudes des proches, et par une culture et une manière d'institutionnaliser le soin. Ce colloque est ainsi un hommage à toutes les personnes qui accompagnent, soignants, bénévoles, les aidants naturels, comme on dit, les proches, parce que toutes ces personnes nous aident à comprendre que les personnes accompagnées ne sont pas seulement des fardeaux à soulager, mais des aides pour nous à mieux honorer notre propre humanité. Voilà, merci. Alors après cette petite introduction, je vais commencer avec le... Alors si vous voulez peut-être voir les images, parce qu'il va y avoir des images, évidemment... Si vous voulez voir les images, vous allez peut-être devant, voilà. Donc, après la tradition des arts de bien vivre et des arts de bien mourir, quelles motivations et ressources personnelles pour demeurer humain jusqu'à la mort ? Mon objectif, en liaison avec ce que je viens de dire, c'est de nous interroger, comme chrétiens, sur les motivations, toutes les représentations aussi, donc les ressources personnelles, collectives, qui permettent dans un même mouvement, de lier vivre mieux sa vie et sa fin de vie. Alors pour ça, je ferai une toute petite incursion dans la longue histoire des rapports différenciés à la mort en Occident, et dont j'ai cité des noms d'historiens que vous connaissiez peut-être, et puis je ferai une rapide évocation du rapport à la mort aujourd'hui, et la cible serait quand même de se demander aujourd'hui quelles ressources personnelles et collectives nous pouvons mobiliser. D'où un plan en trois parties. D'abord la naissance et la reconfiguration des ars bene moriendi, c'est-à-dire art de bien mourir, et ars bene vivendi, c'est-à-dire art de bien vivre. Voilà. Quelques imaginaires et représentations de la vie bonne qui sont mobilisées aujourd'hui. Et puis, quelques ressources personnelles et collectives de la foi dans notre société. Alors j'en viens à la première partie. Quand donc sont nés ces fameux arts de bien vivre et de bien mourir? Et quelle est leur signification? Alors, évidemment, ça intervient à une période définie dans l'histoire, et comme tous les travaux historiques, il faut resituer les choses dans un contexte qui est long. Le rapport à la mort va évoluer. Pourquoi? Parce que le contexte culturel, religieux, le contexte aussi culturel et technique va évoluer. Donc, ipso facto, le rapport à la mort évolue aussi. Donc, je prendrai simplement une partie. Bien sûr, on ne pourrait pas. Il est délicat de faire une longue périodisation des rapports à la mort. Je n'ai pas le temps ici. Je vais me cibler sur un moment particulier où apparaît au XVe siècle, dans la théologie, le développement d'un art de bien vivre et d'un art de bien mourir. C'est un moment particulier. Vous verrez les supports que je vais vous montrer. À la fois allie un enseignement, des représentations, les pouvoirs des images, des pratiques d'accompagnement et bien sûr aussi des pratiques liturgiques au pied du lit de la personne qui va mourir. Pourquoi faire ça? Eh bien pour prendre la mesure de ce qui s'est passé à l'époque, au XVe siècle, comment ça va évoluer et comment en fait on est passé d'art très structuré, vous allez voir comment c'est très structuré, art de bien vivre et de bien mourir au XVe siècle, à, on pourrait dire, une multitude de désirs, de représentations multiples du bien vivre et de bien mourir. Si j'avais à faire des périodes, donc je partirais du XVe siècle, donc vous allez voir les arts de bien mourir, de bien vivre, nés au XVe siècle, surtout, il y a des prémices, mais enfin on ne va pas faire dans le détail, ça se développera jusqu'au milieu du XVIe, puis ça va être reconfiguré à partir jusqu'au XVIIIe, jusqu'à disparaître progressivement dès la fin du XIXe, et puis alors surtout, c'est ce discours sur la mort, l'art d'accompagner la mort, l'art de se préparer à la mort, va disparaître, surtout après les deux guerres mondiales, évidemment. Pourquoi? Ben, à cause de la sécularisation, des guerres, avec un autre type de mort, c'est la mort glorieuse au combat, avec aussi de nouvelles utopies médicales, réussites médicales, qui vont reconfigurer le rapport à la mort. Et puis ça va revenir, en quelque sorte, l'interrogation sur la mort va revenir à partir de, bon, j'ai cité l'émergence des soins palliatifs avec Cicely Saunders, 1967, et puis l'étude des phases du mourir chez Elisabeth Kübler-Ross. Donc le thème de la mort va revenir, après avoir disparu quasiment, va revenir comme objet d'une étude et d'une interrogation en dehors du champ, évidemment, spécifiquement théologique. Jusqu'à la réclamation d'un droit de mourir en 1979, et puis le processus de sécularisation et de désacralisation de la mort va se poursuivre jusqu'à nos jours, jusqu'à la réclamation et l'élaboration de nouveaux droits qui vont porter sur la décision personnelle et bien sûr, thème majeur sur le soulagement de la souffrance que nous allons aborder après. Du coup, est-il possible à partir de cette longue histoire de retrouver aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait parler d'un art? Est-ce que les chrétiens pourraient encore développer un art de bien vivre et de bien mourir? Voilà l'interrogation. Alors, contexte de naissance. Il y a des marqueurs. Bon, le premier marqueur, c'est l'œuvre de Jean Gerson, donc grand chancelier à l'Université de Paris, donc fin 14e, début 15e. Il a une préoccupation, c'est une préoccupation pastorale, parce qu'il s'aperçoit que les théologiens font des grands discours à l'université et que le peuple vit de superstitions, ils ne connaissent rien, comme on dit aussi à l'époque. Bref, les gens simples, comme c'était mis entre guillemets, manquent de connaissances et ne sont pas accompagnés. Du coup, l'idée, c'est d'élaborer de sortes de petits manuels catéchétiques pour accompagner les gens dans leur démarche. Jean Gerson va publier, aux alentours de 1405, trois livres, donc un livre en trois parties, l'œuvre tripartite, avec trois livres qui vont se succéder, un livre des 10 commandements, donc on va rappeler les 10 commandements, on va rappeler aussi l'examen de conscience, donc qu'est-ce qu'on a fait par soi-même par rapport aux 10 commandements, donc c'est toujours une interrogation extrêmement forte, l'accent est mis sur la conscience qui s'interroge par rapport à ce que disent les commandements, et à partir de là, faire toute une démarche d'accompagnement des mourants, le texte étant à destination des pasteurs, mais pas seulement des pasteurs, pour donc développer un art de bien mourir. Alors c'est intéressant parce que Gerson a écrit à la fois en latin et il a traduit lui-même en français. Donc en latin, ars bene moriendi, et en français, la science, hein, l'ars, la science de bien mourir. Voilà comme dit le texte. Alors c'est ce texte-là qui va passer en Allemagne, qui sera illustré par des graveurs célèbres comme le Meister, donc le maître ES, on ne sait pas exactement son nom, vers le milieu du XVe siècle. Et donc on va avoir une conjonction entre un texte produit par Jean Gerson, qui va être remanié, des images, et c'est ça qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va dire dans ces images, une conjonction entre des textes, donc des enseignements, des images et des formes d'accompagnement dans la suite à venir. Alors, quel est l'enjeu de ces arts de bien vivre et de bien mourir? La connexion va être faite assez rapidement, à partir du livre de Jean Gerson, sur un art de bien vivre et un art de bien mourir qui vont être intimement mêlés. Pourquoi intimement mêlés? Parce qu'on parle des commandements et on s'examine par rapport aux commandements. Non seulement à la fin de vie, mais aussi pendant toute sa vie. Donc vous aurez une liaison intrinsèque, on pourrait dire, entre des normes du bien vivre et des normes du bien mourir. Pourquoi? Il y a un enjeu extrêmement important. Parce que les tentations sont plus grandes à l'approche de la mort que pendant tout le reste de la vie. Et surtout, c'est qu'à la fin, on risque de tout perdre. Ah oui, parce que si on renie à la fin tout ce qu'on a gagné pendant sa vie, enfin toute la vertu, etc., on risque de tout perdre dans le combat final. Le combat final qui est le combat de la fin de vie, la gonne, l'agonie, voilà, et on risque de tout perdre. Donc il y a une liaison qui est faite entre le combat durant la vie, le combat spirituel, et le combat en fin de vie. Alors, on va faire une grande mise en scène avec la personne qui va être au centre et qui va être l'objet d'un combat entre des influences contraires. Une influence mauvaise, une influence bonne. Les influences mauvaises, évidemment, c'est les petits démons qu'on va voir, mais bon, est-ce que les gens croyaient aux démons? En tout cas, c'est des influences et tout. Hein, bon. C'est comme, est-ce que les Grecs croyaient à leur représentation? Qu'est-ce que les Grecs pensaient quand on disait Jupiter? Bon, on ne sait pas trop. Hein, bon, voilà, c'est pareil pour les petits démons. Et donc, il y a des démons, et puis des inspirations bonnes, le bon ange, en présence d'un certain nombre de personnes, et notamment de la Sainte Trinité, qui va être toujours présente. Avec un objectif pédagogique assez fort, c'est de lier des textes, donc des enseignements, à des représentations. Et c'est pour ça que ces livres, ces représentations, auront une très grande force, parce qu'ils vont s'adresser à la fois aux lettrés, et puis à des gens qui ne peuvent pas lire, mais qui vont voir. Donc quand vous avez la conjonction entre ce que vous lisez et ce que vous voyez, là, ça produit de l'effet. Voilà. Donc voilà, comme le texte dit, on met devant les yeux ce que spéculativement, par la lettre, est dénoté. Voilà. La grande idée, c'est l'âme qui va être au centre, l'âme qui est le lieu de la décision, donc la personne en sa conscience qui est le lieu de la décision, et la personne ne se connaît qu'au miroir, c'est le thème du miroir qui va revenir fréquemment, la personne ne se connaît qu'au miroir des textes et au miroir des images. Donc elle va pouvoir regarder sa propre vie, okay, découvrir ce qu'elle vit au miroir des textes, la formulation des commandements et des images. Alors j'en ai assez dit, on va venir aux images. Donc, selon un manuscrit de 1475, donc il vient de l'Allemagne. Voilà. Alors, vous avez cinq tentations qui vont se succéder. Et théologiquement, c'est très intéressant. La première, c'est la tentation contre la foi. Pourquoi la foi est en premier? Parce que la foi est le principe et le commencement du salut. Tout est là. Donc, on va commencer par la foi. Alors, il y a, vous voyez tout en haut, alors je ne sais pas comment faire là, si... Voilà, vous voyez ici, là, donc le Père, je ne sais pas si vous voyez mon petit pointeur, le Père, le Fils et Marie, qui sont là, et puis les tentations contre la foi, alors c'est la sagesse humaine, les notables, les affaires, l'idolâtrie. Vous voyez un roi et une reine qui sont devant une idole ici. Le désespoir. Le désespoir, on l'a dit, parce qu'on peut désespérer de sa propre vie ou désespérer de soi-même. Alors vous avez un homme ici qui va presque se suicider, mais il a le couteau sous la gorge. Et la femme qui est là, elle est à demi nue, donc elle symbolise la pénitence, mais cette fois la pénitence comme tentation, c'est la tentation de désespérer de soi-même, on pourrait dire aujourd'hui la tentation de désespérer de la miséricorde de Dieu. C'est ça que ça veut c'est symboliser. Voilà. Alors vous avez le mourant qui est au centre, ici, donc il est toujours au centre, et ce jeu d'influence sur lui, vous voyez, influence bonne, influence mauvaise, avec sous la Sainte Trinité. Alors, ça c'est la tentation. Ah oui, vous avez les petits démons. Alors les petits démons, ils disent des tas de choses, n'est-ce pas? L'enfer est préparé, fais comme les païens, et puis donne-toi la mort à celui qui est là. Oui. Donc c'est les formes de tentation, ce qui est instillé comme discours dans les personnes. Oui, c'est ça la. Et en revers, vous avez à chaque fois une tentation et une bonne inspiration. C'est la figure du bon ange qui est là, et qui va revenir partout. La figure du bon ange qui est envoyé par Dieu. Donc vous avez ici le Dieu le Père, le Christ, la Vierge qui s'approche, voilà, et vous avez l'Esprit consolateur qui se pose au-dessus du lit, et puis vous avez toute la cour céleste derrière, voilà. Et puis l'ange réconforte, sois ferme dans la foi. Et les démons, à chaque fois, vont perdre, vous voyez, fuyons, nous sommes vaincus, nous avons travaillé en vain. Voilà, les figures donc. Alors la première tentation, contre la foi, et les bonnes influences, voilà. Deuxième, la tentation, vous voyez, liée à la première, puisqu'elle apparaissait déjà finalement symboliquement dans la première, la tentation du désespoir face au péché. Alors vous avez un démon qui montre la liste des péchés, là, voilà. Et puis les différents péchés sont énumérés, le parjure, la fornication, le refus de l'hospitalité, vous avez un pauvre ici, et puis ici on n'a pas donné d'argent, voilà. Et le meurtre, ici vous avez le glaive qui est là avec la personne qui est tuée, voilà. Donc la liste de tous les péchés. Donc, si vous voulez, symboliquement, c'est tout ce qui est rappelé dans la conscience de la personne. La personne est au centre, et dans sa conscience arrivent des influences bonnes et des influences mauvaises. On ne sait pas ce que les gens pensaient, ils ne voyaient pas des petits démons fourchus comme ça. Mais c'est pour symboliser les influences. Voilà. Donc, la personne est le théâtre d'influence. Voilà. Donc, tentation du désespoir, et cette fois, le bon ange face au désespoir. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle des vérités de la foi, et on rappelle des images de la foi. Les images de la foi, c'est le bon larron en croix que vous avez ici. Je ne trouve plus. Voilà, ici. Vous avez évidemment Marie-Madeleine. Vous avez Pierre, le figure du reniement avec le coq. Vous avez Saint-Paul ici, tombé de cheval. Voilà. Donc vous avez d'illustres prédécesseurs qui n'ont pas désespéré eux-mêmes de la miséricorde de Dieu, qui étaient des grands pécheurs, contre la tentation du désespoir. Et cette fois, les petits démons s'enfuient, etc. Et avouent leur échec. Pour moi, la victoire est nulle. Donc, deuxième tentation. La troisième, qui est très intéressante, c'est la tentation de l'impatience. L'impatience étant l'incapacité à supporter son état. Alors, vous avez le patient qui est devenu impatient, qui est là. Alors, dans les discours, la traduction française, c'est le mot patient qui apparaît. Voilà. Déjà, fin du 15e. Alors, vous avez, il se débat, il renvoie promener quelqu'un avec son pied, la servante. Une soignante, c'est sans doute sa femme, on ne sait pas trop, mais qui est plein de compassion, qui se porte vers lui, voyez quelle peine l'accable, voyez. Puis le patient, il a renversé la table, etc. Et voilà, bon. Dans la figure de l'impatience. Voilà. Et le petit démon se réjouit, je l'ai bien trompé, c'est-à-dire je l'ai trompé en sens qu'il est, il ne supporte pas son état. Alors cette fois, le bon ange va réagir face à l'impatience. En présentant quoi? En présentant la patience du Christ, donc les instruments de la passion. Le Christ tient la palme de la victoire. Marie-Madeleine tient la cité céleste, la récompense. Et puis vous avez des saints ici qui tiennent les instruments de leur supplice, lapidation, etc. L'échelle, etc. Les roues, bref. Donc ils ont été patients dans la foi. Faut pas oublier le thème central de la foi qu'on a vu tout au départ. Alors, quatrième tentation, la tentation de la vaine gloire. Finalement, c'est un thème très intéressant, c'est que l'homme ne peut pas s'attribuer des mérites. Il ne doit pas compter sur lui, en fait, à l'approche de la mort. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que la tentation de la vaine gloire est placée dans certains manuscrits en dernier, comme si vous avez la foi et la vaine gloire. Mais ça fait qu'un. Compter sur Dieu, ne pas compter sur soi. Oui, voilà. Bon, avec le thème, évidemment, la justification, l'homme ne peut être juste par lui-même et s'appuyer sur ses mérites. Voilà. Alors, tous les petits démons crient dans tous les sens, voilà. Ils essaient de le flatter, hein. Tu as été persévérant, vante-toi toi-même. Oh, tu es demeuré ferme dans la foi, glorifie-toi. Bon, voilà. Bon, et alors l'ange, il fait l'inverse, voilà. Il exhorte, sois humble. Donc, toujours sur le regard du Père, du Christ, de l'Esprit, de Marie, et puis vous avez Saint Antoine en tenue de l'ordre des hospitaliers, avec la clochette et le taux de la victoire. Et puis l'avarice, donc qui est parfois en dernier, mais parfois pas en dernier. Alors donc c'est l'attachement aux richesses. Alors vous avez ici, vous avez la maison. Qu'est-ce qui symbolise la richesse ? Ben, vous avez la maison, vous avez le cheval, vous avez une cave où il y a déjà des barriques de vin. Oui, c'est intéressant. Voilà. Alors l'idée c'est que à ce moment-là, il y a des décisions à prendre. Et qu'il ne faut pas être détourné par autrui des décisions à prendre, ni par les biens, voilà, même pour en faire profiter ses amis. Même ça. Voilà. Donc, c'est que les biens et la présence des amis de l'entourage pourraient détourner de la véritable, du véritable enjeu qui est sur ce moment-là. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est de faire le point sur sa propre vie. Et donc, l'inspiration du bon ange, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, d'où la grande symbolique, sous le regard de la foi, sous le regard de Marie, un ange exhorte le patient, ne sois pas avare. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'il y a un ange qui met une sorte de drap devant un couple d'amis, ne t'occupe pas de tes amis. La grande idée, on la retrouvera assez fréquemment, c'est que les liens, en fait, peuvent distraire à ce moment-là de la véritable tâche qui est de penser à ce que soi-même, sa propre mort. Ça peut être une diversion. Voilà. Donc, vous voyez, le bon ange, qu'est-ce qu'il fait ? Il met une sorte de voile, t'en occupe pas. Voilà. Ils arriveront tout seuls, même si tu ne peux pas les aider. Voilà. Et la scène finale, la remise de son âme à Dieu. Donc vous avez les cinq tentations, et vous avez la scène finale de la remise de son âme à Dieu. Donc toujours sous le Christ en croix, entouré des saints, donc il y a toujours les saints qui sont autour, là, de la croix. Les anges accueillent l'âme sous la forme d'un petit homme nu, voilà. Donc ils le recueillent ici. Hein. Et puis, vous avez la prière de l'Église, c'est un moine qui tient le cierge allumé, symbole de la résurrection, de la prière de l'Église, tandis que l'âme est emportée, voilà, par les anges. Et puis les démons, cette fois encore perdus, pour nous plus aucun espoir, nous avons perdu une âme, la fureur me consume, nous sommes confondus. Voilà. Donc vous voyez, cinq tentations, influence bonne, influence mauvaise, mais au centre, la personne qui doit prendre une décision, qui doit se décider. Donc, insistance, on a trouvé déjà ça chez Gerson, insistance sur la conscience personnelle de ce qui est à faire à ce moment-là. Quelques remarques. C'est assez novateur comme manière d'aborder les choses. Pourquoi ? Parce que la peur de l'après-mort, dans cette représentation-là, ne constitue plus le mobile central. Ce qui est le mobile central, c'est l'option individuelle de la personne qui doit se décider alors qu'elle subit des influences contraires. Pour bien voir le contraste, regardez comment est symbolisée ici la peine de l'avarice dans un texte traduit à la même époque par le même Guillaume Tardif. Donc, c'est la peine éternelle de l'avarice. Vous voyez, ils sont en train de bouillir dans une marmite et les démons s'agitent autour de tout ça. Et on n'a pas ça du tout dans les textes que vous avez avant. Donc, on est sorti de cette peur-là. Voilà. Donc, ce qui est au centre, ce n'est pas la peur des châtiments de l'enfer. C'est pas du tout ça. Vous voyez le contraste avec cette image. De même, autre contraste, c'est que la mort n'est pas représentée, elle n'est jamais représentée dans ce qu'on a vu auparavant. Elle n'apparaît pas, elle n'est pas symbolisée. C'est très intéressant. Contrairement à ce que vous avez là, que vous trouvez sur les danses macabres, surtout après les épidémies de la Grande Peste, vous voyez, vous avez alors toute une liste comme ça de danses macabres, vous avez la mort qui emporte successivement des femmes, des nobles, des servantes. Ici j'ai mis, parce que comme il y a des médecins que je veux honorer dans l'assistance, ils emportent le médecin et l'amoureux en même temps, vous voyez, le médecin et l'amoureux, c'est quand même beau, voilà, et la mort les emporte tous les deux, voilà, tout le monde est soumis au même régime. Voilà. Alors on n'a pas du tout ça. C'est-à-dire que la mort n'est pas représentée, mais la personne en ce qu'elle a est décidée. Très intéressant. Donc, recentrage théologique entre la foi, lien à Dieu et la vaine gloire, attendre de Dieu, ne pas se reposer sur soi, attendre la justification de par Dieu dans l'humilité. Tout est focalisé sur l'individu, sur sa décision en conscience, hein, et avec l'influence des bons et des mauvais esprits qu'on trouvera d'une certaine manière chez Saint Ignace, transformé, mais sans les représentations. Donc, centré sur l'individu, mais les proches, si les proches sont écartés à certains moments, c'est qu'ils peuvent constituer une tentation, bon, rapport au bien, rapport d'aide, alors que Gerson va insister là-dessus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que le salut résulte d'une décision personnelle et ne peut être acquis pour soi par autrui. C'est moi qui a décidé d'eux. Et donc, le thème de la conscience revient très très souvent. Voilà. Et vous avez aussi que sur les images, ce pauvre malade ne parle jamais. Il a très peu d'expression. Comme si les images nous aidaient à nous projeter en lui, puisqu'il ne dit rien. C'est à nous, finalement, à remplir les paroles qu'il ne prononce pas. Il ne dit jamais rien. Les petits démons parlent, les anges parlent, etc. Mais le malade ne parle jamais. Donc ça veut dire qu'il y a un choix à faire. On se projette dans cette figure-là, et c'est à nous à le faire parler, en quelque sorte. Oui. La souffrance du patient n'est jamais évoquée, simplement par la figure de la soignante. J'ai dit sa femme compatissante, je peux croire que c'est sa femme, voilà. Voyez quelle peine l'accable, donc elle donne à voir. Quelques remarques encore. L'insistance déjà chez Gerson, et qui va être dans tous ces traités-là, sur le rapport entre accompagnement médical et accompagnement spirituel. Pourquoi ? Parce que l'accompagnement médical ne doit pas détourner de l'enjeu spirituel de ce qui se passe à ce moment-là. Or, comme le dit le texte, plutôt la tradition de Gerson, je prends le texte d'après, souvent par la grande consolation que les médecins donnent aux malades, par une folle confiance qu'il a de recouvrer sa santé corporelle, alors le malade est négligent de disposer de son âme. En fait, il espère trop, il espère mal. Les médecins lui font espérer des choses, mais de travers. Et du coup, le détourne de l'enjeu. Il néglige de disposer de son âme et en cours damnation éternelle. C'est quand même ça l'enjeu. Donc les médecins, qui devront être sages et prudents, ils ne devront pas détourner les patients de ce qui est nécessaire pour le salut de l'âme. Donc vous avez une articulation là qui va aller jusqu'à Pie XII de ne pas détourner la personne des enjeux, donc également de ne pas la priver d'une certaine forme de conscience pour qu'elle ait bien à faire ce qu'elle a à faire. Voilà. Bon, tout ça va se développer, voilà, en quelque sorte, oui, tout ça va se développer au XVIe, XVIIe, à la fois dans le monde catholique, dans le monde protestant, et on va perdre progressivement, et c'est là où les textes vont perdre leur force, on va perdre le rapport pédagogique à l'image. Vous sentez bien la grande force qu'il y a dans ces images de représentation. Non. Mais, comme on est ici, au Centre Sèvres, je ne peux pas ne pas honorer la mémoire du jésuite Lefebvre, qui a publié encore à la fin du XIXe siècle, « La science de bien mourir, manuel de l'association de la bonne mort ». En 1870, en fait, cette association a été créée ici, en 1859, donc une association promouvant donc la bonne mort, comme ça se faisait à l'époque. Et le but de l'association est d'apprendre à bien mourir et d'obtenir pour soi et pour les autres associés une bonne et sainte mort. Alors, c'est extrêmement intéressant, parce que du coup, en insistant sur la mort, bonne et sainte mort, on a complètement oublié tout ce qui était le rapport intrinsèque entre bien vivre et bien mourir. Vous voyez ? Une sorte de focalisation sur la préparation à la mort, et on a oublié la connexion intrinsèque entre bien vivre et bien mourir. Alors, j'ai mis une petite citation de lui, qui est quand même assez croustillante. Il n'y a rien de plus triste, de plus effrayant que cet aveuglement de presque tous les hommes qui vont à la mort sans y penser. On meurt sans jamais avoir appris. Ah ben oui, on n'apprend pas à mourir. Oui. Et par conséquent, sans savoir. Il n'y a pas de maître ni de leçon nulle part, nous allons commencer. Autrement dit, lui a l'ambition de commencer un parcours, et à l'époque, il avait fait un parcours de 4 ans. 4 ans pour apprendre à bien mourir. Voilà. Donc avec des prières, etc. Oui. Ainsi partout, en France et ailleurs, mais dans cette ville surtout de Paris, il y a une foule d'écoles spéciales, il y a le Centre Sèvres, tout ça, et des maîtres habiles dans toutes les sciences et tous les arts. Mais il n'y a pas une science comparable à celle de la bonne mort, il n'y a pas une seule leçon aussi utile et aussi nécessaire, et il n'y a pas de professeur. Voilà. Il n'y a pas un cours spécial. Voilà. Donc voilà ce qu'il voulait faire. Bon, tout ça, ça va disparaître progressivement, avec une permanence dans un certain nombre de lieux de culte, notamment les cultes autour de la prière pour les âmes du purgatoire, et dans un certain nombre de confréries, parce que toutes les... ces manuels de la bonne mort ou ces sociétés, ces associations seront soutenues par des confréries qui vont diffuser donc des principes ou les prières pour bien mourir. Alors, voilà, petit survol, vous voyez, ça met un paysage. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui? Ah, je pense que les imaginaires et les représentations ont bien changé. Et même à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'imaginaires différents. J'en ai présenté quelques-uns et tenté de vous montrer la nouveauté, notamment celle du rapport à la conscience et du lien à l'image et du pouvoir de l'image et la personne au centre subissant les influences, etc. Et la présence autour des personnes. Alors, la mort continue à hanter les imaginaires et je pense qu'il est impossible aujourd'hui de dégager un art de bien vivre lié à un art de bien mourir, mais il y a un ensemble de critères de la bonne mort qui sont aujourd'hui. Alors, je vous ai mis trois représentations de la mort. Je vais commencer par quelques images de la vidéo de Stromae sur le cancer. Après, quelques petits propos sur le vol de mort dans Harry Potter et une image sur réparer les vivants. Alors, la vidéo de Stromae sur le cancer, où il joue cancer. Donc, cancer, c'est-à-dire quand est-ce que ça va arriver ? Cancer, quand c'est, etc. Ça va dire arriver quand. Alors, vous avez une scène, c'est sur une sorte de scène de théâtre. Or, symboliquement, la scène du théâtre, c'est la scène de la vie. C'est pas, vous avez une scène de théâtre, et vous avez une espèce de cancer, donc un monstre avec plein de tentacules, n'est-ce pas, qui se déploie dans le théâtre. Voilà, il envahit tout, et il finit par, donc c'est la figure du cancer, si vous voulez, et il finit par toucher la personne. Donc, vous voyez, les représentations très archaïques, on peut rigoler, mais extrêmement archaïques, finalement, comme imaginaire, par rapport même aux Ars Moriendi. On peut rigoler des petits démons, mais c'était même pas ça du tout, n'est-ce pas? Voilà. Alors, à la fin, donc au bout, la personne se débat, et à un moment donné, donc, le frappe, vous voyez, donc il y a la personne qui est tendue ici, vous la voyez, elle est tendue, j'arrive pas à trouver le pointeur, mais là, elle est tendue ici, donc elle vient d'être touchée, et ça s'éclaire, donc c'est le moment de la mort, et puis, donc vous voyez les toutes les petites pattes, enfin les grandes pattes d'une espèce de monstre, et en fait le monstre va enlever son âme. Rappelez-vous le petit bonhomme nu dans Lars Moriendi. Il enlève son âme et il va la jeter dans le ciel. Donc elle va monter, vous voyez, donc le monstre se déploie et jette son âme dans le ciel. Donc oui, c'est la scène de théâtre et ça monte. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ben, au-dessus, c'est pas la cour céleste, c'est pas le Dieu le Père. C'est un espèce de maelstrom formé de plein de dendrites, de tentacules, etc., où toutes les petites âmes, qui, vous voyez, sont là, un espèce de maelstrom, un tourbillon, et elles sont prises là-dedans. Donc, c'est toutes les victimes du cancer, vous voyez, et c'est ça l'espèce de ciel, avec un œil assez étrange, qui était ce monstre du cancer, dont l'œil est là, et avec toutes les petites... Voilà l'imaginaire, et qui... Oui, ça sert à l'image du cancer. Vous voyez combien, finalement, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, combien c'est archaïque aussi, hein, comme figure. La représentation de la mort, dans Harry Potter, c'est tout à fait intéressant, le fameux vol de mort dans Harry Potter, qui est une figure maléfique, une figure de la mort, une figure du mal. C'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est tout à fait étrange. On ne doit même pas prononcer son nom. Comme une sorte de peur ancestrale, c'est que si on prononce le nom de quelqu'un qui est une puissance maléfique ou de la mort, on la fait advenir par notre propre parole. C'est ça. Voilà. La mort, c'est ce que tous savent plus ou moins confusément, mais on le sait, mais on n'y croit pas, n'est-ce pas? Sans oser cependant en parler. Alors, Harry Potter est tout à fait intéressant parce que c'est une conjonction entre un schème de rédemption chrétien et un imaginaire païen. Pourquoi? Parce que Harry Potter, en fait, ne peut pas être atteint par Voldemort, donc la puissance maléfique. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que sa mère s'est sacrifiée pour lui. Et alors, la puissance du mal ne peut pas l'atteindre parce que sa mère s'est sacrifiée pour lui. C'est une figure sacrificielle. Sa mère s'est sacrifiée pour lui, alors la puissance maléfique et la puissance de la mort ne peut pas l'atteindre. C'est extrêmement intéressant. Non. Et puis, dernier imaginaire, c'est le dernier film, Réparer les vivants. Est-ce que réparer des vivants en donnant un organe, c'est un moyen d'échapper à la mort? Le don d'organes pour réparer les vivants, c'est une forme de miracle accessible à tous. Vous voyez le vocabulaire religieux qui arrive là, voilà. Donc, est-ce que réparer les vivants, ça va nous épargner la mort? Alors, j'ai encore 5 minutes. Je vous ai listé ici un certain nombre de critères variés de la bonne mort aujourd'hui. S'il n'y a pas un art de bien mourir, il y a un ensemble de critères, on pourrait dire, de la bonne mort, notamment soulager la souffrance, on va en parler tout de suite, garder une qualité de relation interpersonnelle, parvenir à une forme d'achèvement de sa vie en disant au revoir, en réglant les conflits, en préparant sa propre mort, avec aussi des tensions qui apparaissent entre reconnaître l'imminence de sa mort ou s'endormir sans se rendre compte de la fin. Versus, c'est pas la même chose, il y en a qui veulent être conscients d'eux, puis d'autres qui disent surtout pas, je veux pas me rendre compte de ma faim, donc je préfère être endormi finalement, voilà. Réduire au minimum le fardeau imposé aux proches, etc., etc. Et des thèmes très importants, garder le contrôle finalement, le thème du contrôle, sur les informations, sur le lieu du décès, sur la présence des proches, etc. Et l'utilisation des techniques biomédicales de façon adaptée. Partie 3, j'ai 5 minutes, oui, même pas. Quelques ressources personnelles. Il me semble que les ressources personnelles, c'est au tout le, je viens de les donner, mais je voulais dire, c'est aussi ceux qui peuvent apporter des choses, c'est non seulement les théologiens, mais aussi tous les témoins, comme le dit Paul VI, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute des maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Alors j'avais apporté un petit livre de Nicole Carré, la psychanalyste, qui a écrit un ouvrage après avoir connu elle-même le cancer et tout ça, a préparé sa mort, donc il décrit son itinéraire, assez intéressant, voilà. Une soignante à la bonne maison médicale Jeanne Garnier, Rosine de Romanet, la mort est une affaire spirituelle, voilà, comment elle accompagne aussi. Donc c'est à la fois des témoins engagés, si vous voulez. Un livre qui vient de paraître tout. Je l'ai eu hier, mais il n'est pas encore en librairie. Alexandre Ganocchi, un théologien, « Vivre notre mort en chrétien », éclairage théologique pour la fin de vie. Théologien catholique de 87 ans, je suis atteint d'un type de cancer rare en rémission depuis 4 ans, après plusieurs interventions chirurgicales. Voilà, donc on a le droit de parler quand on est comme ça. Voilà, bon, les témoins. Alors, quelques apports de la foi chrétienne. Évidemment, la centralité de la foi au Christ. Bon. Si la mort est une épreuve, elle n'est pas le mal absolu. C'est ça, pour nous, c'est pas un mal absolu. On ne peut pas se comporter d'une autre manière. C'est pas un mal absolu, la mort. C'est pas la plongée dans le néant, comme on a vu sur les petites âmes qui étaient perdues dans le monstre, là, non ? Voilà. L'importance de la foi-confiance. On retrouve des choses aujourd'hui sur le lien de la confiance. C'est, à mon avis, un des grands apports de la pensée chrétienne, c'est l'insistance sur la question du lien. Voilà. La question du lien, la question de la foi, je serai avec toi, c'est quand même la promesse de l'alliance de Dieu à Abraham, c'est la promesse du Christ, voilà, je serai avec toi, si je traverse les ravins de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, etc. Voilà. Donc, la puissance de l'accompagnement, en fait, être accompagné, rester dans le lien. Une grande force aussi, me semble-t-il, c'est la grâce de trouver quelqu'un pour exprimer sa plainte, depuis Job, qui maudit le jour de sa naissance, jusqu'au psaume et au prophète, voilà. Je défaille, donc il faut pouvoir se plaindre à quelqu'un. Et on ne peut se plaindre qu'avec une oreille qui écoute. Et s'il n'y a personne pour se plaindre, on fait quoi ? Voilà. Donc il y a une grande force de la foi, d'avoir quelqu'un à qui se plaindre. Ça ne va pas, je proteste. Bon, la mystique de l'être avec, ça c'est Paul, texte que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas le temps de commenter. Évidemment, c'est la mystique de l'être avec et la mystique de vivre pour. Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir m'est un gain. Aucun de vous ne vit pour soi-même, et personne ne meurt pour soi-même. C'est magnifique, ça, l'idée de vivre pour et de mourir pour. On ne vit pas pour soi-même, ni... Voilà. Voilà. Bon. La justification par la foi ou la grâce de ne servir à rien, c'est frappant le nombre de personnes, à commencer par mon père, qui dit souvent, écoute, maintenant je ne sers plus à rien. Oh, ben, je dis, mais c'est très bien, je dis, Dieu ne sert à rien, c'est magnifique, tu comprends des choses. Voilà. ne servir à rien, finalement. Bon, mais c'est difficile. Ne servir à rien. C'est le lien qui est thème profond de la foi. Voilà, la mort, est-ce que la mort est la dernière figure de l'échec? Quelle est la place de l'échec, finalement? On risque d'être victime des idéaux de la réussite de sa vie, ou même des idéaux de la réussite de sa mort. Parce qu'il faut même réussir dans sa mort, quoi. Alors je pense que la foi se produit une dimension critique dans ces idéaux, même de la bonne mort. Parce qu'on peut être victime des idéaux de la bonne mort. Voilà, une dimension critique. La foi chrétienne configure autrement le temps, aussi, c'est une chose extrêmement importante pour moi. C'est-à-dire, nous n'allons pas seulement de notre temps vers la mort ni vers la vie éternelle, mais c'est la vie éternelle qui vient au-devant de nous. Ça, le temps fonctionne d'une autre manière. Voilà. Du moment que vous êtes ressuscité, dit Paul, comme des vivants revenus d'entre les morts, c'est maintenant. Donc en fait, c'est pas un temps, on va de maintenant vers la mort. C'est la vie éternelle qui vient dès maintenant à nous, comme dit Paul, vous êtes ressuscité avec le Christ. Et cette conscience-là, évidemment, a transformé l'existence des chrétiens dans toutes les institutions de soins et aujourd'hui encore dans le bénévolat, dans les personnes qui accompagnent. Voilà. En fait, le temps, il n'est pas celui-là. C'est la puissance de la résurrection qui vient à nous dans le présent. Voilà, puis il y a une chose sur la conscience, notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Dans toute une méditation aussi sur le sens de l'agonie, on en parlera tout à l'heure, je crois que je vais dépasser mon temps. Voilà, l'importance de la conscience aussi, avec la critique d'une volonté systématique de supprimer l'agonie, aujourd'hui, on trouve ça dans les textes de Pie XII. Pourquoi? Parce que, on l'a déjà vu dans les traités du XVe siècle, la conscience est le lieu de la décision. Donc priver quelqu'un de la conscience, c'est faut regarder, on ne fait pas ça n'importe comment. Pourquoi? Ben, comme le disait déjà Pie XII, quand il faisait une critique d'une anesthésie systématique à l'approche de la mort, dans le seul but d'éviter au malade une fin consciente. Je ne veux pas voir. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être des tâches importantes à faire, des choses à décider, des réconciliations à faire, etc. Voilà. Bon, le reste, les conditionnements sociaux, oui. Ah, dernier point, l'importance du regard. Ce qui m'a beaucoup frappé dans tous les tableaux que nous avons vus, c'est l'importance du regard. Il aurait fallu que je vous fasse des gros plans, le regard de Dieu, du Christ, de Marie-Madeleine, tout ça, le regard attendrissant de la femme sur son mari, tout ça. Il y a une centralité du regard. Or, le regard que nous portons sur les personnes malades, diminuées en fin de vie, conditionne la manière de s'y rapporter individuellement et socialement, définit ce qui mérite d'être vécu ou la condition d'une vie qui vaut d'être vécue. Bon, eh bien, je termine par là. Mettre en œuvre la ténacité du lien, on l'a vu, la question de la foi, voilà, avec cette figure de pierre dans les eaux, les eaux de la mort et la main du Christ. Et je crois que finalement, un des défis que mettent en œuvre, d'ailleurs, tous ceux qui accompagnent, tous ceux qui sont dans les soins, c'est de garder le lien, Emmanuel Hirsch dirait le devoir du non-abandon. Si les soins palliatifs, les gens sont assez exaspérés par la représentation des soins palliatifs comme une main tendue vers une autre main, comme s'il y avait que ça à faire, il me semble qu'il y a un symbole puissant, c'est le symbole de la relation finalement, qui doit demeurer jusqu'au bout. Alors voilà, les soins n'en aiment pas, ces figures-là, moi aussi je suis très critique, parce qu'on a l'impression que les soins palliatifs se limitent à donner la main, pas du tout. Je crois qu'il y a un symbole extrêmement puissant, et j'ai mis les deux mains les unes en lien avec les autres, vous voyez, comment le lien de la foi peut nous tenir. Tenir le lien aussi, aujourd'hui, le lien social avec les personnes diminuées, et stimuler notre inventivité personnelle et sociale pour lutter contre la souffrance et lutter contre l'abandon de cette personne et lutter contre des formes de désespérance. C'est ce que dit très bien la liturgie. Tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils, un lien si fort, nouveau si fort, que rien ne pourra le défaire. Je pense que si nous pouvons, les chrétiens, honorer une manière de se tenir dans cette épreuve de la mort et de la maladie, c'est en tentant de montrer qu'il y a un lien si fort que rien ne peut le défaire, en donnant des soins médicaux, des soins d'accompagnement. Et donc, merci à tous ceux qui y sont engagés. J'ai fini. Voilà. Patrick, est-ce que tu peux venir? S'il y avait une question pendant que Patrick se met en place, je pourrais y répondre, mais... fondateur du département éthique biomédicale, investi depuis très longtemps dans l'éthique biomédicale, un des acteurs très importants de la diffusion des soins palliatifs en France, de la réflexion sur le soulagement de la souffrance. Patrick me faisait remarquer qu'il avait écrit son premier article en 1974, « Respecter la vie, accepter la mort ». Donc merci Patrick, avec ton beau parcours de réflexion, mais aussi acteur engagé dans le soin, dans la réflexion sur la souffrance, de traiter le sujet entre valorisation de la souffrance et volonté de l'éradiquer à tout prix, le chemin d'une compassion active. Merci.
Bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis pour réfléchir autour des concepts de bien vivre et de bien mourir. Or, en préparant cet exposé, ce à quoi j'ai été confronté, c'est d'abord à la notion du mal mourir. Est-ce que vous m'entendez ? Ça va ? Dans Messieurs Claes et Lenoti, dans le rapport de présentation de leur proposition de loi, il y a quelques mois, écrivait en 2014, « Nous partageons, avec tous les travaux conduits sur la fin de vie, le constat que le mal mourir persiste en France. » Et puis un rapport fait au Sénat un peu après, évoquait un débat approfondi ayant abouti au constat accablant du mal mourir en France. Alors Emmanuel Hirsch, dans son dernier livre, a sans doute raison de protester contre cette représentation aussi purement négative et qu'on colporte un peu partout. Il écrit « Le mal mourir s'est imposé comme une figure imposée », il écrit aussi « À défaut d'avoir été en capacité d'intervenir sur le bien vivre, sur le vivre avec les personnes malades et leurs proches, et donc ce lien avec les grands malades. Eh bien, nos responsabilités se sont figées dans la préoccupation d'assurer à ces malades un bien mourir. Mais on peut se demander s'il s'agit vraiment d'un bien mourir ou s'il s'agit d'une mort anesthésiée, d'une mort esquivée, si l'on prend les termes du rapport Sicard. Alors, je réagis donc un peu contre cette expression de mal mourir, mais il n'y a pas lieu non plus de nier les déficiences de notre système de santé, il n'y a pas lieu de nier les conditions éprouvantes dans lesquelles meurent encore nombre de nos concitoyens. Il serait donc inacceptable aujourd'hui de baisser les bras, de se contenter de la situation actuelle. Il faut bien voir que les responsables politiques et des santé publiques de ces dernières années ont fait preuve d'une regrettable passivité, et notamment, les pouvoirs publics n'ont pas cherché à faire connaître la législation de 2005 et qui était pourtant une législation équilibrée. Du fait de ces 11 ans perdus, des centaines de milliers de personnes sont mortes en France dans de mauvaises conditions. Et c'est un fait que le souvenir gardé par les familles ne contribue pas à corriger cette image de la mauvaise mort. Alors, si je me lance un petit peu dans l'évocation des siècles passés, je pense qu'on parlait de la mal-mort. Il s'agit donc, pour les hommes politiques, d'essayer de rassurer la population, et aussi pour paraître honoré des promesses qui avaient été faites à des fins électorales. Les deux députés, donc Messieurs Claes et Lenoti, en présentant leur proposition de loi, l'ont présentée comme ouvrant des droits nouveaux, et je cite, « droit à une fin digne et apaisée, droit de ne pas souffrir », droit à une sédation en phase terminale, assurance d'une mort apaisée. Donc cette promesse faite par des hommes politiques d'apaiser toute mort. Il est même précisé par ces mêmes parlementaires, Cette sédation doit répondre à la demande légitime des personnes atteintes d'une maladie grave et incurable qui envisagent leur fin de vie, demande légitime de ne pas souffrir et de ne pas prolonger, selon elle, cette période, pas prolonger, selon elle, inutilement cette période ultime. La sédation est profonde pour garantir l'altération totale de la conscience. On peut remarquer ça, alors qu'on insistait dans les siècles passés, au contraire, sur la préservation de la conscience. La sédation est profonde pour garantir l'altération totale de la conscience, cet endormissement prévenant toute souffrance, y compris celle résultant de se voir mourir. Et donc, comme idéal de la mort, ne même pas se voir mourir. Et le texte continue. Selon les termes de Jean-Claude Ameisen, président du Comité national d'éthique, lors de son audition, « Je ne suis pas obligé d'être le témoin de ce qui va advenir. » C'est donc une représentation propagée aujourd'hui. Représentation centrale, donc, de rêve d'une mort de laquelle toute souffrance aurait été évacuée. Mais si on réfléchit, toute souffrance, ça veut dire toute douleur, angoisse, doute sur la valeur de la vie passée, doute sur la valeur de la vie présente, préoccupation du devenir des proches, souffrance spirituelle, tout cela évacué. Avec les progrès de la médecine, la personne humaine ne devrait plus souffrir. Et ce qui est proposé, alors là par M. Leonetti lui-même, dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Voilà une représentation désormais proposée pour éviter le mal mourir. La souffrance étant le pire ennemi de la personne humaine, il s'agit de l'éradiquer, fût-ce en privant cette personne, sur sa demande, la priver de toute conscience et de toute relation. Alors, j'ai parlé de représentation, d'image proposée d'une mort dont serait absente toute souffrance. C'est bien ce qui a été développé récemment devant les parlementaires. Mais reconnaissons que dans sa rédaction finale, à l'issue des débats, la loi est en fait plus prudente et ne concède un droit à une sédation profonde maintenue jusqu'au décès que dans des circonstances assez limitées. On peut cependant se demander si cette image générale d'une mort sans souffrance ne l'emportera pas sur une interprétation stricte, une interprétation de la loi telle qu'elle est écrite. Et si c'était le cas, donc se laisser emporter par cette image d'une mort sans souffrance et de prendre tous les moyens pour éviter toute souffrance, alors seraient pleinement justifiées les remarques critiques du groupe de travail mandaté par la Conférence des évêques de France à propos justement de cette proposition de loi. Il serait erroné de penser résoudre le mal mourir par la seule création d'un nouveau droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Ce droit ne supprimera pas les causes de ce mal mourir, mais générera, s'il est pris isolément, un mal vivre plus profond, ainsi que de nouvelles inquiétudes et angoisses chez nombre de nos contemporains. Donc est ainsi récusée l'image, jugée totalement illusoire, d'une médecine qui, par le simple déploiement de ses moyens anesthésiques, permettrait de vivre paisiblement la fin de sa vie et épargnerait l'entourage. Et puis de plus, pour l'Église catholique, le temps d'approche de la mort est une période de la vie qui non seulement n'est pas vide de sens, mais qui peut même être féconde et permettre des démarches importantes et l'établissement de relations d'une particulière densité. Il serait donc profondément regrettable pour l'Église catholique de priver de cette possibilité la personne parvenue au terme de son existence. Donc, récusation de cette perspective d'une mort anesthésiée, sous sédation profonde, maintenue jusqu'au décès, à moins qu'il n'y ait à cela de sérieuses raisons. Et de telles raisons existent, comme le reconnaissait dès 1957 le pape Pie XII dans son discours si important sur l'analgésie, 1957, c'est-à-dire à peu près il y a 60 ans. Et donc l'acceptation de cette anesthésie en fin de vie pour des raisons très sérieuses, et plus généralement, acceptation de l'emploi des analgésiques centraux pour le soulagement de la douleur, alors que ces médications étaient alors, à cette époque, récusées par le corps médical de pratiquement tous les pays en raison des dangers supposés de l'emploi prolongé de tels analgésiques. Tout ça donc pour illustrer ce que je devais développer. Volonté d'éradiquer la souffrance. Mais je dois parler de entre volonté d'éradiquer à tout prix la souffrance et la valorisation de cette souffrance, le chemin d'une compassion active. J'en viens donc à ma deuxième partie. La valorisation de la souffrance et la valorisation de la souffrance qui a eu lieu chez les chrétiens et tout notamment dans l'Église catholique. Il ne faut pas se le cacher. Et cette valorisation de la souffrance, on la voit attestée encore il y a une trentaine d'années dans la lettre apostolique Salvi Vici Doloris. Salvi Vici Doloris, douleur ou souffrance, souffrance salvifique, souffrance porteuse de salut. Où le pape Jean-Paul II développe longuement sa conception du sens chrétien de la souffrance. C'est le sous-titre de la lettre apostolique. Voici les tout premiers mots de ce texte. En expliquant la valeur salvifique de la souffrance, l'apôtre Paul écrit « Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. » Et je continue le texte. Ces paroles semblent se trouver au terme du chemin qui parcourt longuement les détours de la souffrance inscrite dans l'histoire de l'homme et éclairée par la parole de Dieu. Elles ont presque la valeur d'une découverte définitive qui s'accompagne de la joie, donc découverte par l'apôtre Paul, mais découverte définitive qui s'accompagne de la joie. Aussi l'apôtre écrit-il « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. » La joie vient de la découverte du sens de la souffrance. Et même si Paul de Tarse, qui écrit ces paroles, y participe de manière très personnelle, cette découverte vaut en même temps pour les autres. Je continue le texte. L'apôtre fait part de sa propre découverte, il s'en réjouit, à cause de tout ce qu'elle peut aider, comme elle aidait lui-même, aider à pénétrer le sens salvifique de la souffrance. Et cette expression « sens salvifique de la souffrance » est répétée trois fois donc dans les 15 premières lignes de la lettre apostolique, et je n'ai pas fait le compte de la répétition dans le reste du texte qui est assez long. C'est bien le thème principal de la lettre apostolique. Alors voici, je ne lirai pas toute la lettre, voici un passage significatif qui résume un peu tout cela. Le Rédempteur a souffert à la place de l'homme et pour l'homme. Tout homme participe d'une manière ou d'une autre à la rédemption. Chacun est appelé, lui aussi, à participer à la souffrance par laquelle la rédemption s'est accomplie. Il est appelé à participer à la souffrance par laquelle toute souffrance humaine a été ainsi rachetée. En opérant la rédemption par la souffrance, le Christ a élevé en même temps la souffrance humaine jusqu'à lui donner valeur de rédemption. Tout homme peut donc, dans sa souffrance, participer à la souffrance rédemptrice du Christ. Et Jean-Paul II reviendra plusieurs fois sur ce thème de la valeur salvifique, de la valeur rédemptrice de la souffrance humaine. Mais il commente aussi, il faut lire, si on lit cette lettre, il faut la lire jusqu'au bout, il commente aussi la parabole du bon samaritain et il écrit ceci. Tous ceux qui souffrent ont été appelés à compléter par leur propre souffrance ce qui manque aux épreuves du Christ. En même temps, le Christ a enseigné à l'homme, il faudrait mieux dire, je crois, à la fois, le Christ a enseigné à l'homme à faire du bien par la souffrance. Par le seul fait qu'il souffre, il fait du bien, il collabore à la rédemption. Mais en même temps, à faire du bien à celui qui souffre. Sous ce double aspect, il a révélé le sens profond de la souffrance. Donc, faire du bien par sa souffrance, mais aussi faire du bien à celui qui souffre. Il ne faudra donc pas oublier l'insistance de Jean-Paul II sur la parabole du bon samaritain. Mais ce qui est dit quand même de la souffrance humaine, tel qu'il le dit, il y a encore en 1984, c'est-à-dire une trentaine d'années, eh bien cela nous surprend aujourd'hui, et je pense que cela choque beaucoup d'entre nous. Choque beaucoup d'entre nous. Comment affirmer à la fois que le Christ a accompli l'œuvre de la rédemption, et qu'en même temps, il faut achever cette souffrance? Comment dire que cette souffrance doit être complétée? Et comment affirmer la valeur non pas de certaines souffrances, car nous faisons l'expérience qu'étant passé par certaines souffrances, cela nous a amené parfois à des changements profonds et très bénéfiques pour nous. Mais comment affirmer la valeur de la souffrance humaine? Pour justifier ce qu'il dit, Jean-Paul II s'appuie surtout sur quelques textes bibliques, le chant du serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe, et surtout le passage que j'ai lu tout à l'heure de l'Épître aux Colossiens, Colossiens 1, 24. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais surtout, il reprend des thèmes qui ont été longtemps admis et développés au sein même de l'Église catholique. Dans la lettre, un sens est attribué à la souffrance humaine en fonction de son rapport avec la rédemption. C'est par ce thème qui est désigné le salut de l'humanité, le rétablissement de sa communion avec Dieu. Alors ce thème a été évidemment abordé au cours des siècles et de façon différente. Mais certains des systèmes théologiques ainsi élaborés nous posent question aujourd'hui et nous paraissent même porteurs de déviation, sinon de perversion. Et comme le soutient ici même un professeur de théologie, Bernard Sesboué, qui a écrit l'article « Salut » du dictionnaire de spiritualité. Et il développe dans cet article que les concepts qui étaient déjà dans la Bible, mais les contextes de sacrifice, les contextes d'expiation, de satisfaction pour le péché, ont été repris à partir du XIIe siècle et interprétés en référence aux catégories juridiques de l'époque et confrontés à l'image du souverain, du roi de l'époque, du souverain offensé dont il s'agit de restaurer l'honneur bafoué par l'offense. L'importance théologique donnée à la satisfaction est liée à l'entrée en scène de l'honneur médiéval, écrit ainsi Sesboué. Et donc, selon lui, ce schéma anthropologique de la compensation va progressivement parasiter la réflexion théologique, introduisant l'idée qu'il doit y avoir une correspondance exacte entre le mal commis et sa réparation. Bon, il y aurait donc beaucoup à dire sur cette théologie qu'il faut bien qualifier de doloriste, mais qui a été développée pendant des siècles. Alors, deux remarques quand même. d'une part, que la piété du peuple chrétien a su s'emparer de ces notions, mais en les humanisant, si l'on peut dire, et peut-être même plus en les christianisant, s'est répandue la notion de réparation d'amour, non pas de souffrance pour expier, mais de réparation d'amour. Les chrétiens ont été invités à contempler avec amour le Christ en croix. Et puis s'est développée également la dévotion au Sacré-Cœur avec la contemplation du cœur aimant et transpercé de Jésus. Avec peut-être trop d'affectivité, mais cela a été une marque d'un amour reconnaissant du peuple chrétien. D'autre part, nous risquons de très mal interpréter tout cela aujourd'hui. D'autre part, il faut bien reconnaître le soutien que, en valorisant la souffrance, l'Église a apporté à des personnes affrontées à d'éprouvantes souffrances. Alors, je voudrais lire un petit passage du livre « Histoire de la douleur » de l'historienne Roselyne Ray, qui dit à propos donc du médecin et du prêtre en face de la souffrance, et notamment de la souffrance de fin de vie. Tout se passe comme si une répartition des rôles était bien établie entre le médecin et le prêtre. La religion essaye de donner sens à la souffrance. Ses discours et son cérémonial accompagnent et organisent la maladie et la mort. Elle vise à consoler et à expliquer. Elle ne nous paraît pas dicter le comportement du médecin. Elle n'interdit pas au médecin d'employer des antalgiques, parce que ces antalgiques n'existent guère à l'époque, et la plupart des malades ne voyaient pas les médecins. Elle ne dicte pas le comportement du médecin dès lors que ce médecin s'essaye à rationaliser sa pratique. Dans le dénuement de la misère et l'abandon à la douleur, le discours religieux pallie l'impuissance ou l'absence de la médecine sans effacer l'espoir de ne pas souffrir. Donc cette historienne parlait de l'absence d'antalgique. Jean-Paul II, lui, parle d'épreuves de toute nature et de soutien que peut apporter un discours religieux. Il dit notamment « Surmonter le sentiment de l'inutilité de la souffrance, qui est une impression qui est parfois profondément enracinée dans la souffrance humaine, devient une source de joie. La souffrance ronge intérieurement la personne. Elle semble faire d'elle un poids pour autrui. La découverte du sens salvifique de la souffrance en union avec le Christ transforme ce sentiment déprimant. » En lisant ça, je me suis dit, mais finalement, ce pape, donc cet homme en fait nous livre sans doute une expérience personnelle avec la théologie dans laquelle il avait été élevé dans son pays, la Pologne. Son expérience personnelle, lui dont la jeunesse a été traversée de multiples épreuves, dans un pays qui a été particulièrement atteint par les drames du siècle et qui avait trouvé la force de résister dans la foi chrétienne. Donc, ce n'est pas un discours idéologique de Jean-Paul II, il y a quelque chose de très personnel à mon avis. Il n'en reste pas moins que ces discours n'est plus audible aujourd'hui, et qu'il repose sur des bases très contestables. Alors, je n'ai pas le temps de le développer longuement, mais je prendrai un exemple. Jean-Paul II s'appuie surtout donc sur cette citation de l'apôtre Paul, qui disait, selon le texte que j'ai cité tout à l'heure, « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. » Principal fondement biblique de Jean-Paul II. On peut se demander s'il n'y a pas là une tragique erreur de lecture de ce verset de saint Paul, tragique erreur de lecture qui d'ailleurs s'est maintenue pendant des siècles elle aussi. Voici la rédaction actuellement proposée, dans la traduction liturgique de la Bible la plus officielle, celles qu'on trouve sur Internet. Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Rien de changé. Ceux qui restent à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Ceux qui restent à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair. Il n'est plus question de compléter les souffrances du Christ, mais Paul, lui, n'a pas terminé sa course. Il est conduit encore pour annoncer l'Évangile à courir bien des dangers, à rencontrer bien des oppositions, à souffrir bien des souffrances. Il trouve sa joie dans l'accomplissement de ce ministère et dans les souffrances supportées pour les fidèles. Paul trouve la joie d'annoncer l'Évangile et la joie même de souffrir pour l'annonce de l'Évangile. C'est quand même quelque chose de tout à fait différent. Et d'ailleurs, j'avais été très surpris auparavant par ce verset de saint Paul qui, tel qu'il était traduit, était totalement un apax dans les écrits de saint Paul, parce que partout ailleurs, Paul s'étale, avec un peu de complaisance, peut-on dire, sur ses souffrances, mais c'est toujours les souffrances que rencontre l'apôtre dans la diffusion de l'Évangile. Bon, j'espère que nous sommes maintenant quand même sortis de cette période de valorisation de la souffrance dans les milieux chrétiens et spécialement catholiques. Mais que dire alors? Si nous voulons ni esquiver l'existence de la souffrance, ni lui accorder une valeur en elle-même. Eh bien, je pense que l'on peut revenir à ce que vivaient les chrétiens des premiers siècles. Alors, je ne remonte pas seulement au XIVe siècle, mais au premier siècle du christianisme. Les chrétiens ne se voilaient pas la face devant les souffrances, la souffrance omniprésente, ne la fuyaient pas, ne la valorisaient pas, mais donnaient une place centrale à l'attention à la souffrance du frère. Ils prenaient l'Évangile au sérieux. Il cherchait à se préparer à la rencontre du roi qui interrogera chacun au terme de sa vie sur son attitude à l'égard du frère dans la peine ou le besoin. Et c'est là la référence donc justement à l'existence, ce qu'on fait de son existence. Ces chrétiens attendaient, espéraient la miséricorde divine, le pardon de Dieu, mais ils disaient: comment espérer cette miséricorde de Dieu si on n'est pas soi-même miséricordieux envers ses frères et sœurs, si on n'a pas, c'est le sens de miséricorde, si l'on n'a pas le cœur touché par la misère d'autrui. Cœur touché par la misère d'autrui, miséricorde. Et si on n'agit pas en conséquence? Et tel était le discours tenu, on en trouve des exemples encore jusqu'au XIIe siècle. Si nous désirons trouver le souverain juge plein de miséricorde pour nous, soyons nous-mêmes miséricordieux, compatissant envers qui souffre, nourrissons qui a faim, abreuvons qui a soif, vêtons qui est nu, etc. Était pris au sérieux par les chrétiens des premiers siècles la parabole du jugement dernier dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Et donc, pendant tout un millénaire, au cœur même de la pratique chrétienne étaient placées les sept œuvres de miséricorde. Nourrir qui a faim, vêtir qui est nu, etc. Et aux sept œuvres de miséricorde temporelle seront ajoutées les sept œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, etc. Voilà, je pense, ce qu'il nous faut redécouvrir. Et c'est d'ailleurs une insistance du pape François qui reprend exactement cette perspective. Et dans sa bulle d'indiction de l'année de la miséricorde, il se réfère aux œuvres de miséricorde des premiers siècles. Il écrit dans cette bulle d'indiction « Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c'est sur elles que nous serons jugés. Aurons-nous donné à manger à qui a faim, boire à qui a soif, etc. etc. » De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur et bien souvent la solitude, si nous avons été capables de vaincre l'ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, etc., etc. C'est dans chacun de ces plus petits que le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré. Pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. Nous n'oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Même rapport donc au Christ crucifié, à la souffrance du Christ, mais invitation à reconnaître cette souffrance dans tous ceux qui nous entourent et qui sont dans la détresse. Mais être miséricordieux, œuvre de miséricorde, ce langage paraît suranné aujourd'hui et un peu trompeur parce qu'on réduit la miséricorde au pardon des offenses bien souvent. Pour désigner cette attitude de sensibilité à la souffrance ou au détriment d'autrui, sensibilité à sa misère, sensibilité qui conduit à chercher à apporter remède, je pense que le terme le plus adapté aujourd'hui est celui de compassion. Et c'est pour ça que dans le titre, je parlais de compassion active. Compassion à distinguer de la pitié dans laquelle nous avons peut-être tendance parfois à enfermer autrui, l'enfermer dans sa souffrance, dans une souffrance qui d'ailleurs nous fait fuir. La compassion, elle, est d'abord une émotion, un sentiment, une souffrance personnelle devant la souffrance d'autrui, mais une émotion qui met en mouvement, qui cherche à répondre à l'appel d'autrui. C'est un affect, mais un affect qui fait agir, qui vise la relation avec celui qui est en proie à la souffrance. La philosophe Agatha Zielinski écrit « La compassion, ce n'est pas la larme à l'œil, c'est la responsabilité. » La compassion suppose donc une double disponibilité, disponibilité à nous laisser toucher par la souffrance d'autrui, mais disponibilité aussi à nous laisser déranger par la souffrance d'autrui. Cela nous demande de sortir de la pitié, mais cela laisse entier le mystère de la souffrance humaine. Privé de tout modèle explicatif, et la tentation est peut-être souvent de chercher à expliquer la souffrance, privé de tout modèle explicatif, peut-être nous sentirons-nous appelés plus vivement à participer, là où nous sommes, à l'œuvre d'apaisement de la souffrance humaine. Or, nous savons, en ce qui concerne les personnes en fin de vie, qu'il y a beaucoup à faire, et que cela prend souvent la forme de soins palliatifs appropriés, et de l'accompagnement, sur lequel insistait Bruno Santo tout à l'heure, sur la relation. La compassion nous invite à nous mobiliser pour une prise de conscience généralisée de l'urgent devoir de développer cette aide à ceux qui sont dans la souffrance et proches de la fin de leur vie, à développer donc aujourd'hui eh bien, ce qui est souvent appelé soins palliatifs et accompagnement. Bon, je termine en quelques minutes. Il n'est pas au pouvoir de l'homme d'éradiquer toute souffrance. Dans certains cas, pourra même manquer les moyens directs d'agir sur les sources de cette souffrance. Grâce à la médecine, aujourd'hui, nous disposons de beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Mais parfois, manquera le moyen direct d'agir sur les sources de cette souffrance. Mais au moins, par une présence attentive et discrète, pourrons-nous souvent attester à celui qui souffre qu'il est reconnu par d'autres humains comme un frère ou une sœur. Déjà en cela, la compassion se révèle active et bénéfique. On voudrait être un baume sur tant de plaies, écrivait Etty Hillesum dans son journal, alors qu'elle tentait d'apporter le soutien de sa présence et de son écoute à tous ceux et toutes celles qui allaient être déportés par les nazis dans les camps d'extermination. On voudrait être un baume sur tant de plaies. Etty Hillesum n'était pas chrétienne. Elle avait découvert l'Évangile, mais n'était pas chrétienne. L'appel à la compassion ne s'adresse pas aux seuls chrétiens, et dans bien de religions est développé ce concept de compassion. Mais les chrétiens peuvent découvrir un fondement religieux à cet appel universel à la compassion. Le pape François disait dans le passage cité, « C'est dans chacun de ses plus petits que le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, etc. Pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. Si nous avons à prendre de la distance vis-à-vis d'une valorisation religieuse de la souffrance, la contemplation du Christ crucifié peut, encore de nos jours, contribuer à nous ouvrir à la souffrance de tant d'êtres humains. Mais cette même contemplation peut aussi apporter à ceux qui sont ainsi affligés le réconfort de la découverte de l'amour de ce Fils de Dieu qui a tenu à visiter l'humanité jusqu'au fond de l'abîme de la détresse humaine. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Patrick, pour ce beau parcours et ces précisions. Et on voit que interpréter aussi les textes bibliques, il faut parfois du temps avant de les lire correctement, même s'il y avait des philologues et tout ça qui ont travaillé sur les textes. Voilà, merci beaucoup pour cet engagement d'une compassion active. Peut-être qu'on va laisser une question, sinon vous allez être, avant de passer la parole à Catherine, mais Catherine, tu auras ton temps, donc pas de panique. Voilà. Peut-être une question ou deux, comme ça, prendre un peu de respiration, sinon ça fait beaucoup de discours.
Mais je pense que, oui, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut essayer de prendre tous les moyens pour essayer d'apaiser, de diminuer la souffrance et même de la soulager totalement si on peut, qu'il y a des cas où on ne peut guère soulager une telle souffrance sans diminuer la conscience du malade, qu'il faut parfois en venir, dans les cas les plus tragiques, à diminuer cette conscience et même agir pour supprimer la conscience, faire tomber la personne dans l'inconscience, ce qu'on appelle la sédation, il faut savoir recourir à la sédation dans les cas qui sont vraiment indiqués. Et je pense que ce sont les cas dont vous parlez. Et donc, ce dont j'ai protesté, c'était cette idée de, eh bien, quelqu'un en fin de vie, on va le plonger dans la conscience, dans l'inconscience, parce que il faut éviter toute souffrance, et donc cette image généralisée d'une mort anesthésiée, d'une mort inconsciente. Et c'est contre ça que j'ai protesté. À un certain moment, je vous ai dit, mais il faut savoir justement, il faut protéger la conscience, mais savoir en venir employé la provocation d'une sédation, et j'ai dit, pour de raisons sérieuses, évoquées déjà par le pape Pie XII en 1957, déjà il y a 60 ans. Et donc, il y a lieu de savoir recourir à ces moyens anesthésiques dont nous disposons, mais y recourir avec discernement pour des raisons sérieuses.
Voilà, ces questions-là, en fait, sur la sédation seront abordées plus spécifiquement dans le colloque du 10 décembre, qui traitera plus spécifiquement de la sédation et du rapport aux directives anticipées, un peu plus technique qu'aujourd'hui, en fait, voilà. Vous aurez sans doute des réponses plus précises, mais voilà. Alors, oui, alors très rapidement, oui. Prends, quelqu'un peut lui passer le micro, parce que sinon on n'entend pas. Allô? Non, on n'entend pas.
Oui. Non, je voulais juste dire aussi qu'il faut donner beaucoup d'importance à la compétence médicale, parce qu'on a beaucoup de gens chez lesquels, par exemple, on met des morphiniques, on monte les doses et ça ne marche pas, on va endormir les patients, alors que les patients ne relèvent pas, par exemple, de morphiniques. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des malades pour lesquels on m'appelait comme ça, des malades en très grande douleur, complètement recroquevillés sur les douleurs, et on change de médicament. On en donne certains types, on en rajoute d'autres. Et j'ai vu comme ça des malades pour lesquels on m'avait dit de toute façon, c'est même pas la peine que vous le voyez, vous ne pourrez rien pour lui. Et je les ai vus quelques jours plus tard aller à la cafétéria avec leurs pieds de perfusion. Donc la première des choses, c'est quand même que nous, médecins, nous soyons compétents pour bien prendre en charge les malades. Et si on n'a pas toutes les compétences, qu'on passe la main à d'autres médecins.
Voilà, merci. Donc tout ça sera redéveloppé. Merci Dominique Poisson, voilà, qui est donc médecin et qui travaille dans le soin palliatif. Donc il a toutes les compétences requises pour répondre à ces sujets. Alors je passe la parole à Catherine Finot, professeure de théologie morale à l'Institut catholique de Paris. Catherine est salésienne de Don Bosco et elle a aussi une grande qualité, pas partagée par tout le monde, elle est médecin. Voilà. Elle a travaillé sur l'hospitalité, notamment sur les éthiques du care. Elle enseigne à la fois la théologie fondamentale, mais aussi les questions d'éthique familiale et les questions de bioéthique. Alors, on parlait tout à l'heure de compétences. Alors, donc, Catherine va nous parler des compétences qui sont mises en œuvre dans la famille. Il y a un certain nombre de compétences qui sont mises en œuvre dans la famille. Comment les lire, les décrypter et les valoriser. Bien vivre et bien mourir, une expertise familiale du prendre soin. Merci Catherine.
Merci. Voilà, bonjour à chacun, ceux que je ne vais pas saluer. Voilà, donc je pars bien sûr de cette tradition chrétienne qui conserve la mémoire d'une fin de vie tournée vers les autres. Très paradoxale notre tradition, hein. Le Christ en croix qui se tourne vers celui qui est à côté. Vous voyez déjà qu'on a une double tradition de prendre soin de la personne en fin de vie et qu'elle-même se tourne vers l'autre. Dans cette tradition chrétienne, donc centrée vers des relations possibles, je vais essayer d'interroger la perspective du prendre soin. De temps en temps, j'emploierai le mot care, c'est la traduction anglaise. Et puis, il y a toute une philosophie derrière. Qu'est-ce qu'elle suggère sur le bien mourir? Mon idée étant, comment révéler à la personne, à la famille, les ressources dont elle dispose pour accompagner la fin de vie, une qualité du bien vivre qu'elles se sont appropriées. Et donc, il va falloir pouvoir faire appel. Et indissociablement, et là, ce sont les philosophies du care qui le rappeler la responsabilité politique de soutenir ces familles, de valoriser leurs contributions. Donc, je vais parler en trois temps. Prendre conscience d'une expertise familiale, du prendre soin. Deuxième temps, solliciter, écouter la parole des plus vulnérables, donc la personne en fin de vie. Ce qui correspondrait au versant politique du care. Et puis, si j'ai le temps, je dirai quelques mots sur le fait de valoriser, dans cet esprit-là, la compétence des familles en matière de jugement bioéthique. Expertise familiale du prendre soin. Des familles expertes en matière d'accueil, d'hospitalité réciproque, les ressources d'un art de vivre, parce que finalement, le prendre soin, c'est un des invariants de la vie familiale. Que ce soit les parents qui s'occupent de leurs enfants, que ce soit la relation à l'intérieur du couple, que ce soit l'aide aux parents âgés devenus dépendants. Finalement, la famille est un haut lieu de la solidarité et pour chacun un espace privilégié où trouver refuge, assistance. Et on a même une expertise pour la gestion de la précarité jusqu'au niveau de l'intimité des corps. Après tout, c'est en famille qu'on gère l'alimentation, l'hydratation, l'hygiène, le nursing, tous les soins du confort corporel. Ce sont les médiations quotidiennes par lesquelles la famille soutient la vie de ses membres, procure à l'enfant, à l'adulte, une sécurité affective suffisante pour partir dans le monde extérieur, restaure une expérience gratifiante du corps lorsque l'insécurité s'accentue avec la maladie ou avec l'âge. Lorsqu'une personne fragilisée a besoin d'être reconnue, écoutée, valorisée, bah finalement la famille peut être un espace privilégié pour ne pas réduire l'autre à un objet de soin. Lui conserver un statut social où il a la joie de donner comme de recevoir. Il y a un apprentissage quotidien d'un art de l'accompagnement, du soutien réciproque, d'un art de recevoir avec gratitude, qui est probablement la première ressource engrangée dans les familles lorsqu'il va s'agir d'accompagner la fin de vie. On lit souvent, sous les écrits des philosophes contemporains, que la famille est un laboratoire du lien, de la solidarité sociale, une école des capacités, l'expression est du philosophe Jean-Philippe Pierron. Chacun acquiert de multiples compétences, aussi la capacité d'attention, de décentrement de soi, de responsabilité partagée, hein, toutes ces qualités d'être nécessaires. Oui, évidemment, il faut quand même donner aux familles la possibilité de vivre l'éducation, de vivre le soutien intergénérationnel dans de bonnes conditions. Hein, on sent la parole politique qui pourrait être mise derrière cela. Mais quoi qu'il en soit, si ça peut se jouer, à ce moment-là, vraiment cette interdépendance positive est une bonne nouvelle à opposer à une culture de l'absolutisation de l'autonomie ou de la performance qui peut être si douloureuse à vivre lorsque on perd ses moyens en fin de vie. C'est très beau tout ce que je viens de dire. Il se trouve que la famille est aussi un lieu d'épreuve. Que, ben voilà, il y a bien aussi autre chose qu'on entend, pour rester dans notre sujet, c'est le coût existentiel du soin. Lorsque les aidants familiaux sont de plus en plus sollicités pour assurer le soutien d'un proche en situation de handicap ou de dépendance, on peut arriver épuisé avant même la fin de vie. Et d'autant que de l'autre côté, la vulnérabilité croissante peut faire dériver les relations vers l'imposition d'exigences pratiques, affectives, de plus en plus tyranniques. Je dis que là aussi, il y a un enjeu de nos politiques de santé de permettre aux familles de ne pas basculer dans l'épuisement, la violence, la précarité, avant même le temps de l'accompagnement du mourir. Et on sent bien que le soutien de la famille en tant que tel, c'est-à-dire pas seulement le soutien des personnes en fin de vie, mais le soutien de la famille en tant que tel doit rester un objectif prioritaire, j'allais dire non seulement dans les services de soins palliatifs qui leur préparent des lieux hospitaliers, mais j'allais dire aussi et d'autant plus que les personnes seraient restées à domicile et que les familles se sont mobilisées pour le leur permettre et que ça dure. Voilà. Donc on est souvent dans cette condition-là, donc une expertise, mais une expertise à soutenir. Je reprends avec la tradition d'éthique du care les différentes pratiques du soin. Le prendre soin était défini, entre autres, par John Tronto. Tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer, réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Difficile de faire plus large, hein, comme définition du prendre soin. Ce sur quoi assis John Tronto, c'est que nous sommes non seulement vulnérables dans le corps, mais précaires au niveau des relations, et que finalement, être bien, bénéficier du prendre soin, ça dépend beaucoup de relations réussies. Et finalement, pour ajuster en permanence ces relations, Tronto a décomposé la pratique du soin en quatre phases complémentaires, qu'il est toujours intéressant de se rappeler. Il y a se soucier de, j'identifie le besoin, prendre en charge, je m'organise ou j'organise, prendre soin concrètement, voilà. Et puis, important, le quatrième volet, c'est recevoir le soin. Et recevoir le soin, c'est aussi une participation active à l'évaluation du soin. Et ce qui est intéressant, c'est que Tonto dit que ça demande des qualités morales. L'attention pour identifier le besoin, la responsabilité, bon, je me lance pour prendre en charge, la compétence, je sais faire tel ou tel soin ou être concrète, et la capacité de réponse, c'est la traduction de ce qu'elle emploie comme terme en anglais, qui en gros est je suis capable de dire comment je reçois le soin, de guider la personne, d'évaluer. Et son idée est qu'il y a une formation voilà, humaine à acquérir pour vivre tout ça. Il y a des compétences à mettre en œuvre. On doit se faire évaluer et c'est accepté. Il y a une dignité à être capable de vivre tout cela. Tout ça pour dire que prendre soin, recevoir du soin, c'est aussi grandir en humanité, acquérir des capacités, apprendre à s'engager. C'est une participation à des relations, à la vie sociale. Tout ça ne s'arrête pas en fin de vie. Il y a quand même, c'est toujours pareil, un versant possiblement négatif à cette affaire-là. L'interdépendance, dont on entend souvent parler dans l'éthique du care, peut être lue de manière positive ou négative. Alors quand vous voulez une lecture négative, vous prenez des auteurs un peu radicaux. Judith Butler a parlé du care, et elle va le voir en parlant la précarité du sujet, de la personne, les failles de l'autonomie et même de la volonté dont on prend conscience précisément quand la maladie, la précarité sociale ferait la même chose, nous met en situation de dépendance. Chez Butler qui radicalise les choses, c'est un caractère universel de l'expérience humaine. Dès les premiers soins donnés aux nourrissons, nous apprenons que personne ne prétend être totalement maître de soi-même. Et elle va fonder l'éthique sur un besoin universel de protection contre le risque de violence réciproque dès que je suis en dépendance vis-à-vis d'autrui. D'entendre cette approche très critique du soin nous rappelle que le dialogue va être crucial dans toutes les familles, même les plus aimantes et soutenantes, pour surmonter l'ambivalence inévitable des relations, la méfiance réciproque, les peurs réciproques, et qu'il va falloir définir des règles du jeu de la cohabitation. Elle écrit sur le care en général, dans toutes ces situations un peu radicales, attention, le risque de la violence n'est jamais loin. Et ça, c'est intéressant de l'entendre. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, la famille a enseigné à sa manière des pratiques de la juste distance. Finalement, nous apprenons en famille la discrétion en matière de nudité, le secret en matière de confidence, la communication possible sur le mode de l'implicite, toutes les gammes de la pudeur familiale. Finalement, on apprend par ces règles familiales de la discrétion, du respect de l'intimité, on intériorise des interdits et on perçoit, par exemple, que certains gestes doivent être délégués pour ne pas prendre une emprise excessive sur un proche. Les limites imposées au prendre soin se révèlent structurantes. Rien que d'éduquer des enfants, on apprend à respecter, si j'ose dire, le mystère de l'autre, sans pour autant le mettre à l'écart. Seulement voilà, à l'approche de la mort, les relations se déstabilisent. Et c'est quelquefois précieux, à ce moment-là, de mettre en jeu l'entraide des différents acteurs du soin. Des soignants qui arrivent avec leur déontologie professionnelle, qui ont appris à valoriser la dimension d'équipe, la dimension communautaire du soin, qui vous apprennent à passer le relais, qui apprennent à s'assurer de la présence d'un tiers quand la relation deviendrait trop fusionnelle. La foi chrétienne peut aussi soutenir cet effort de démaîtrise vis-à-vis de l'autre, on pourrait intégrer ici l'apport de l'aumônerie. Finalement, l'aumônerie permet aussi à celui qui soigne, à celui qui supporte le soin, l'accompagnement, de s'appuyer sur une écoute fraternelle et peut-être ultimement aussi de percevoir la fidélité de Dieu qui supplée ses limites. J'aime bien cette expression d'Henri Nouwen sur la compassion. Lorsque nous quittons l'autre, la compassion de Dieu qui est bien plus grande que la nôtre se manifeste. Hein, apprendre à lâcher prise et à ne pas s'embarquer dans des relations où j'éprouve très dramatiquement mon impuissance. Le sens accordé aux gestes du quotidien, l'attention au souffle, au relèvement, la fidélité dans la visite d'un malade, ça confère du sens jusqu'aux extrêmes de la vulnérabilité, ça confère une présence à l'autre avec un grand K, A, qui nous libère de la fusion mortifère. Donc toute une compétence, voilà, qui l'est ou qui n'est pas, mais qu'on va pouvoir solliciter et aider. J'ajoute maintenant et je rentre dans un deuxième versant qui serait l'écoute de la parole des plus fragiles, pour nous des personnes vers la fin de vie, et qui nous renvoie aussi au versant plus politique du care. Alors, on est bien d'accord que pour que l'accompagnement d'un proche puisse avoir lieu, il faut donner aux familles les moyens de soutenir leurs membres les plus vulnérables, de conférer à chaque famille la famille, l'autonomie, pour user des différents moyens sanitaires, sociaux qui sont mis à disposition, ce qui n'empêche évidemment pas, enfin, ce qui n'implique pas l'absence de devoir ou d'évaluation. Mais voilà, moi aussi je pensais à Emmanuel Rich, sous-titrant l'un de ses ouvrages « Le devoir de non-abandon ». De fait, des familles ne vont pouvoir tenir le soutien de quelqu'un, d'une personne en fin de vie, que si elles sont suffisamment épaulées financièrement, pratiquement, pour assumer cette responsabilité, que ce soit par les services publics, que ce soit par tous les réseaux de proximité, de voisinage associatif, voire la communauté ecclésiale locale. Nous sommes extrêmement tributaires pour ce soutien, un soutien qui peut être symbolique. Des lois de solidarité sociale soutiennent symboliquement la mission conférée aux familles. Des choix économiques, je pense à l'administrateur de la maison Jeanne Garnier qui me racontait quelques années en arrière que son rôle, c'était de répartir le budget et de s'assurer que la soignante n'était jamais seule la nuit. C'est intéressant à penser, hein, si je projette sur les familles, enfin, voilà, toujours ce renvoi. Mais vous voyez bien que ce respect de du temps de mourir, ça passe par des moyens concrets de soutenir les familles. Voilà, des chambres d'accueil, des espaces conviviaux, et j'en passe, hein, de l'accompagnement. Tout ceci a un coût. Et l'histoire démontre que le budget, que ce soit celui de l'État, des hôpitaux, de tout ce qu'on veut, est toujours déficitaire. Je fais un peu d'histoire, c'est toujours déficitaire. Et donc, quelqu'un comme Agatha Zielinski, dans son article sur la compassion, intégrait à la fin les dimensions sociales de la compassion. Pas seulement quand je suis face à l'autre, mais quand je suis face à toute la société pour faire connaître et réclamer les moyens d'écouter, d'accompagner, de prendre soin jusqu'au bout. Car si la responsabilité sociale, pour le coup, dont on parlera tout à l'heure, d'une société envers les plus fragiles de ses membres requiert tout le temps des choix onéreux, bah finalement ça veut dire que quand je suis dans la posture de prendre soin, il y a un versant de combat politique pour réclamer ce droit à l'hospitalité. Et quand on croise une famille qui dit « Et en plus, il a fallu que je me batte pour obtenir », vous rajoutez tous les trois petits points, mais quelque part, ça fait partie de la tradition du prendre soin et de l'hospitalité, toujours. C'est un des versants de ce combat pour se faire entendre. Alors, il n'y a pas que la famille qui se fait entendre, il y a aussi, peut-on entendre l'expertise, la parole de la personne en fin de vie, elle aussi. Là aussi, je peux l'enraciner dans l'éthique du care, puisque John Tronto, lorsqu'elle s'est occupée du prendre soin, a élargi très vite, au tout début, l'éthique du care, c'était les femmes qui prenaient soin. Et puis, John Tronto a dit, attendez, c'est pas que les femmes qui peuvent dire, on est invisibles quand nous prenons soin. Tous les métiers, les catégories professionnelles du prendre soin ne sont pas suffisamment considérés. Et c'est d'ailleurs pour défendre ces catégories professionnelles, au départ, qu'elle a identifier toutes ces étapes du soin, montrer les responsabilités et les capacités morales qu'avaient les personnes, et donc en déduire que toutes ces capacités, voilà, ça va de celui du politicien dans la politique de santé, au directeur de l'hôpital, à l'aide-soignante, à la famille, au malade, tout ce monde-là a des compétences et des capacités à honorer. Ce n'est pas seulement une histoire à dire que la multiplicité des charismes contribue à la vie du corps tout entier, mais il y a aussi l'idée que c'est justement toutes les personnes, même les plus précaires, parce qu'elles se sentent vulnérables quand elles prennent soin, ou parce que c'est la personne qui est en situation de fin de vie et qui est vulnérable, toutes ces personnes ont droit à la reconnaissance de leur dignité et ont droit à l'écoute de leurs paroles, ont droit à ce que leur jugement sur la situation soit entendu. Ça me rappelle aujourd'hui tout le travail qu'on fait sur la pertinence de la parole des pauvres, entre guillemets, le mouvement autour de Diaconia. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, c'est qu'on se rend compte que ça suppose en amont d'avoir donné des moyens que ces personnes prennent la parole, de former les personnes à la parole. Il y a donc tout un travail d'accompagnement, de possibilités pour écouter, pour que l'autre puisse parler. Et bien sûr, cette restauration de la parole du mourant a pris un sens, et même dans certains auteurs, un sens politique, au sens, ça se rapproche assez fort de ce que Guillaume Leblanc dit, la promotion de la figure de l'usager, qu'on a entendu hein, dans le monde médical, où l'usager était la conquête d'une identité positive citoyenne, où j'avais le droit de faire valoir mes droits. Et il y a eu une phase de réflexion où on critiquait, en valorisant la personne qui avait à mourir, on critiquait l'imposition d'une figure idéale du mourir. J'ai retrouvé un extrait dans qui parlait d'une enquête aux USA, et où ils avaient fait toute une enquête sur les patients, justement, en fin de vie, et à cette époque-là, dans les années 60-70, ils avaient eu la surprise de trouver aux États-Unis le profil du mourant méritant, affrontant la mort avec sang-froid et bonne humeur, enfin, ou du moins avec dignité, ou enfin, en fait, en coopérant avec les professionnels et en respectant les autres malades. Évidemment, une analyse critique dévoilant tout l'intérêt aujourd'hui, on dirait managérial et du personnel soignant, qui nous alerte au fait de ne pas instrumentaliser des personnes en fin de vie au profit de la mise en œuvre d'une politique de santé, de ma conception du soin, de etc. Mais évidemment, les personnes en fin de vie sont aussi accompagnées d'autres personnes qui ont besoin de faire entendre leurs difficultés, personnel soignant, mais aussi l'ambivalence des proches sur la charge parfois écrasante qu'est l'accompagnement d'un proche qui parfois leur incombait déjà depuis plusieurs années. En tout cas, comment entendre ces paroles? Alors, ensemble entendre la parole et ensemble échanger nos compétences pour rester à l'écoute de ce que j'appellerais l'altérité de la personne en fin de vie. Veiller, c'est entraider ensemble. Justement parce qu'il y a des pièges psychologiques ou des enjeux politiques qui seraient des pièges, veiller à maintenir la personne mourante et sa singularité au centre de la relation de soins. Les proches ont acquis déjà, donc, j'avais dit, une expertise dans cet art de soutenir la personne au quotidien, dont elles la connaissent, cet art de la voir, cet art de lui faire parler, toute une habitude de l'exercice de l'écoute de l'autre. Et en même temps, en fin de vie, on peut être désarçonné parce qu'il y a les changements et l'altération du corps. L'autre ne ressemble plus à ce qu'il a été. Des choses toutes concrètes comme la baisse de l'audition, comme la fatigue extrême qui empêche de penser ou de parler, et évidemment, au pire, la douleur qui renforce la difficulté de communiquer. Puis il y a le rapport différent au temps, focalisé sur le présent, marqué par l'angoisse de l'impuissance ou marqué par l'apparence passivité de la personne, tout le déchirement suscité par l'approche de la séparation, tout ça peut évidemment déstabiliser, paralyser un dialogue. Et là arrive l'apport des soignants qui peut être crucial, car celui qui ne saurait plus communiquer ne percevrait que la déshumanisation de la relation et très vite la déshumanisation du malade. Et inversement, si un soignant initie la famille à la manière de communiquer, soit en se mettant face à la personne, etc., dans son axe de vie, dans son axe de vue, soit en communiquant par du langage non verbal. Quelquefois, il faut vraiment apprendre les gestes basiques à quelqu'un qui est tétanisé. Eh bien, le temps du mourir va pouvoir se réinscrire dans le parcours de vie de la personne et de sa famille, et donc ressolliciter toutes ces ressources paralysées. Et puis inversement, la famille, elle, peut guider les soignants en leur indiquant les traits significatifs de l'histoire, de la personnalité de la personne qu'ils accueillent. Vous voyez, un partage d'expertise qui permet de repérer toutes les ressources chez nous, et c'est la personne qui se voit dénuée de tout à ce moment-là. Toutes les ressources pour leur permettre d'être effectives. Agatha Zielinski dit que cette collaboration est finalisée à la restauration d'une liberté réciproque, autant que possible, dans cette gratuité des relations classiques, la donnée de son temps, de son énergie, de son attention, de son savoir-faire, de soi-même, quoi, pour qu'autrui retrouve en soi la capacité de donner. Et il en va de l'équilibre de ce compagnonnage malaisé en humanité, qu'est l'accompagnement du temps du mourir, et qui, voilà, nous nous entraidons sur ce plan-là. Et finalement, c'est grâce à ça que nous pouvons nous entraider à être attentifs et au service de la personne dans sa singularité. Je vais rajouter quelques mots sur, il me semble que finalement, ça donne aux familles une compétence, si j'ose dire, aussi en matière de discernement bioéthique. Nos convictions anthropologique, hein, sur la vie, sur l'homme, se construisent souvent dans nos pratiques. Et c'est comme ça qu'une famille peut acquérir une compétence, même si personne dans la famille n'est philosophe, médecin, théologien. N'empêche que les pratiques concrètes de prendre soin de services auxquels tout le monde a été initié en famille, j'allais dire la pratique de l'agapé, hein, voilà, pour les chrétiens, l'attention, on fait acquérir une expertise en humanité, du flair pour dépister les ambiguïtés des pratiques. Si on a cette particulière intention à la proximité des personnes et à la relation, on comprend que l'euthanasie est un acte dont la violence, mais aussi, j'allais dire, le caractère volontaire de la rupture de la relation qu'il comporte, semble vraiment porter particulièrement atteinte à ce qui est les fondements de la vie de la famille, qui est un peu, si on pouvait symboliser les familles, comme des relations inaliénables quelque part, même quand elles sont souffrantes. Si je suis attentif à la qualité de relation, c'est peut-être bien ce qui va commencer à me permettre de juger du bien fondé. Alors, sans rentrer trop dans la sédation, si on m'explique, évidemment, une sédation continue, c'est une des modalités de la sédation en cas de souffrance incoercible. Et, nous dirait Pie XII, une fois que la personne estime avoir accompli ce qu'elle devait faire. Mais on peut aussi comprendre, la mise en disposition d'un protocole de sédation d'urgence, ça peut lever l'angoisse d'une personne qui craint une complication extrêmement urgente, et en levant l'angoisse, lui permettre de vivre finalement plus paisiblement. Bon, ça suppose d'être dans un lieu où on peut faire ça. Une sédation intermittente, vous savez, des temps de sédation qui peuvent être levés, quelquefois permettent d'offrir un repos et un répit dans la souffrance, va permettre d'espérer reprendre ensuite, pour un temps, la relation avec ses proches, ou de bénéficier d'un accompagnement psychologique ou spirituel. Finalement, c'est bien pour favoriser des qualités de relation qu'il faut donner accès à toutes ces modalités. Et puis, c'est bien pour qu'on puisse faire ça qu'il a fallu construire en amont une relation suffisamment confiante avec l'équipe médicale, soignante, etc., pour que l'information circule. Donc on voit bien, il y a une exigence que je peux avoir à travers mon attention aux relations qui va me donner déjà des pistes pour discerner, mais évidemment en parlant avec les autres. Il me semble que prendre conscience des capacités de soins développées en famille, dont j'essaye de vous dire que sont aussi des capacités au discernement, ça permet de les prendre en compte, avec leurs limites, de les solliciter pour aider à résoudre nos dilemmes aujourd'hui. J'ajouterais bien aussi que c'est aussi important de prendre en compte de cette dimension collégiale, hein, si on peut dire, de la responsabilité exercée vis-à-vis de celui qui meurt et d'oser s'entraider, les différents acteurs du prendre soin, et que c'est pour nous, dans notre société contemporaine, un réel déplacement d'une culture de l'autonomie à cette culture d'une interdépendance, en essayant de la faire basculer vers une interdépendance positive, et que quelquefois ça nécessite de changer nos propres représentations de « je devrais être capable de tenir en toutes circonstances » pour conserver paix et estime de soi dans ces situations-là. C'est Corinne Pelluchon qui dit « mais attendez, on peut continuer à être autonome quand on fait un acte qui ne l'est pas parce que la décision qui se prend aujourd'hui suit la décision qu'on avait prise hier de s'en remettre à l'avis du médecin ou au soutien de la famille, de la décision de mon fils ou de ma fille. Et idem pour le fils et la fille, si finalement il s'en est remis à l'avis du médecin parce que voilà, c'est quand même bien en notre nom que telle ou telle personne fait ce qu'il estime être le meilleur pour nous. C'est une autonomie étayée, mais c'est une autonomie quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la suite de je sais plus si c'est l'article ou son livre, Corinne Pelluchon remarquait que quelquefois, c'était la personne en fin de vie qui devenait en ce domaine le maître de sagesse de ses proches et de ceux qui l'aident, et que de la même manière que quelquefois les personnes âgées nous transmettent une expérience du temps et un rapport au monde un peu plus contemplatif, et qui nous aide à prendre des distances vis-à-vis de notre monde stressé et performant, et bien quelquefois on a la chance que ce soit la personne en fin de vie qui transmette une tradition, une expérience, un sentiment de sagesse, et que finalement l'entraide fonctionne aussi dans ce sens-là. Voilà, pour conclure, une des chances de la famille, c'est de redonner place à l'ensemble de la vie familiale. Et pour relier avec l'image de la passion du Christ et du Christ qui se tournait vers le bon larron, Corinne Pelluchon citait la parole de Simone de Beauvoir, « La vie conserve un prix tant qu'on en accorde à celle des autres ». Et c'est donc quelque part un enjeu de faire un temps du mourir qui soit vraiment un temps de vie. Et pour faire du mourir un temps de vie, il y a aussi la sagesse, et là je l'emprunte à un article de Paul Ricoeur, qui consiste, on va conclure là-dessus, surveiller à égayer la pensée de la mort par l'accueil de la naissance et une salutation à tout ce qui grandit et croît autour de nous. Et sur ce plan-là, il me semble que la famille a quelquefois de magnifiques atouts, là aussi, pour aider à un rapport et à un prendre soin du mourir qui soit le plus porteur d'humanité possible.
Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Catherine, pour remplir cette tâche de révélation, parce qu'il faut apprendre à regarder. C'est vrai, merci beaucoup, de stage de révélation, à la fois des capacités d'action, des capacités de discernement des familles. Je note aussi tout ce que tu as dit sur le rapport à l'autonomie comme finalement remise de soi à un autre, ou cohérence par rapport à sa propre vie, et finalement la remise de soi à un autre comme aussi acte d'autonomie, et ton insistance aussi sur la personne qui est en fin de vie, elle transmet aussi, enfin elle peut, voilà, elle peut transmettre aussi des choses, et c'est souvent un héritage dont on parlera sans doute tout à l'heure. Marie-Dominique, des bénévoles qui se trouvent enrichis par ce qui est transmis dans un lieu où on a l'impression que ça va dans l'autre sens. Voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, peut-être on peut accueillir avant la pause quelques questions pour que ça soit plutôt frais. On décalera. Voilà. Oui, alors vous attendez le micro. Je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Alors si quelqu'un veut bien faire le porte-micro.
Allô, allô.
Voilà. Vous parlez bien dans le micro. Moi, c'est vraiment. Merci beaucoup. Vous parlez bien devant le micro, s'il vous plaît.
J'ai une question basique. La fin de vie dont il est question, est-elle la fin de vie du croyant ou la fin de vie au sens large ? J'ai l'impression que le topo de Catherine Fraud s'adresser à toute personne en fin de vie, alors que les deux premiers exposés s'adressaient plutôt aux croyants. Donc,
j'ai un
grand point d'interrogation là-dessus.
Alors, peut-être Catherine va répondre, puis chacun pourra répondre à sa manière. Voilà.
Oui, je l'ai traité de telle manière à ce qu'on puisse l'entendre dans une très grande diversité de rapports à la foi. Et en même temps, pour avoir travaillé pas mal dans l'histoire, mais je ne suis pas rentrée dans ce qu'a fait Bruno Sato, on retrouve cette expérience des pratiques et d'une transmission pratique de l'accompagnement aussi dans les traditions chrétiennes. Quand on voit les traditions des bonnes morts, par exemple, c'est impressionnant de voir des exemples. Je vais pas parler, mais dans les histoires de bonnes morts, c'était la transmission d'expériences du mourant au mourant. Alors, ça commençait par l'histoire de la passion capable de le Christ se tournant vers l'autre, et puis le mourant qui avait été capable finalement de trouver un apaisement et de faire tel ou tel geste. Et ces histoires de bonne mort étaient lues aux personnes, libres à elles de se projeter, Ricoeur dirait, dans le monde du texte et de rentrer dans telle ou telle proposition. Et finalement, c'était la sœur hospitalière qui racontait ça, qui faisait passer la tradition d'un mourant à l'autre, vous voyez. Et on avait cette transmission. Alors évidemment, quand on est dans ces textes-là, j'ai fait quelques allusions, il y a la confiance en la foi. Mais ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que ça n'était pas seulement, comme on aurait pu le penser, la foi en la résurrection qui faisait que les gens retrouvaient, mais c'était la lecture de l'histoire de la passion et de découvrir qu'on pouvait mourir en étant encore tourné vers l'autre qui faisait revivre les personnes. Et ça, vous voyez, cette transmission d'expérience, c'est pour ça que je vais commencer par ça, paradoxalement, c'est aussi quelque chose qui fait partie de notre tradition chrétienne et qui peut être quelquefois plus directement accessible dans notre monde pluriel et nos familles plurielles qu'une foi en la résurrection où les personnes n'ont pas les mots pour dire et pour s'approprier. Donc il faut absolument jouer sur toutes les facettes de notre tradition, tradition pratique, tradition spirituelle, comme on l'a vu. Et finalement, on a vraiment, j'allais dire, des richesses à partager et à se transmettre, mais qui sont largement autant du bien vivre que du bien mourir. Hein. C'est là où ça se prépare avant, si on peut dire.
Peut-être Patrick, un petit mot là-dessus.
Eh bien, j'ai suivi le titre, le sous-titre de ce colloque, Contribution chrétienne à. Alors, moi, j'ai parlé de la contribution chrétienne au fondement de l'attitude de compassion, en disant que c'est ça, finalement, que l'on peut retenir de cette tradition chrétienne qui est le plus éclairant pour nous. J'ai bien dit que ce concept de compassion n'est pas réservé aux chrétiens, mais je ne suis pas compétent pour le développer dans d'autres traditions. Donc c'est la limite. D'habitude, ce n'est pas l'orientation que je prends, mais c'est l'orientation que j'ai prise aujourd'hui.
Oui, merci beaucoup de votre question. En fait, c'est toute notre démarche qui consiste à faire fond sur les ressources chrétiennes pour montrer comment elles peuvent être valables pour d'autres. Si je prends le lien de la foi, la relation d'alliance, je serai avec toi, passerai-je un ravin de ténèbres, je serai encore avec toi, je ne crains rien, car tu es avec moi. Évidemment que c'est une traduction dans la foi, en tant que Dieu nous accompagne, mais il y a une cohérence entre Dieu qui nous accompagne et les autres personnes qui, au nom de leur foi ou au nom d'autre chose, nous accompagnent quand même et nous disent, par la pensée, par les attitudes, par les actions, je suis encore avec toi ou je serai encore avec toi. Si vous voulez, le lien de la foi, Alexandre Ganocchi parle de la foi-confiance, mais c'est ça, pour montrer comment elle se traduit dans le même mouvement, dans un lien à Dieu et dans la relation à autrui. On ne peut pas les séparer, en fait. C'est la cohérence même de notre foi. Donc, ce que nous disons sur le lien à Dieu et sur le lien humain est valable pour tous. Si on insiste pour dire, finalement, ce qui nous tient dans la vie, ce sont les relations. D'ailleurs, moi, je suis très frappé, finalement, en fin de vie, les gens disent, mais qu'est-ce qui nous tient encore? Qu'est-ce qui nous fait encore vivre? C'est les liens qui restent. C'est ce qu'on a tissé. Ça, c'est le lien de la foi. C'est ce qui nous tient ensemble. Et ça a une valeur éminemment théologique. On peut la fonder théologiquement. Et ça se traduit dans la société. Ce que nous n'avons pas, on ne peut pas tout dire, mais tout le corpus de sagesse que Catherine vient d'évoquer, le corpus de sagesse dans les écrits bibliques,
Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste, un temps pour naître, un temps pour mourir. Bon, voilà, ben, il y a du temps. Il y a des temps, la vie, on ne fait pas tout. Et voilà. Alors, il y a une sagesse en même temps dans le corpus biblique, dans la tradition chrétienne, qui dépasse en même temps la confession de foi explicitement chrétienne au Christ, qui s'adresse à beaucoup. Alors on n'a pas honoré le corpus de livre de la sagesse, je ne sais pas qui le fera tout à l'heure, on ne peut pas tout faire. Voilà. La question de la plainte, trouver quelqu'un pour se plaindre, trouver une oreille encore, ça ne va pas. Il faut trouver une oreille, il faut trouver quelqu'un pour dire ça. Ça a une valeur théologique profonde, la protestation auprès de Dieu, et ça a une valeur éminemment humaine, mais dans le même temps. Hein. La vaine gloire, on pourrait dérouler toutes les tentations que j'évoquais tout à l'heure. Toutes, elles ont une signification théologique, elles se traduisent au niveau humain. Ne pas compter uniquement sur soi. Parce qu'en fin de vie, bah, les richesses, tout ça, de toute façon, ça s'effrite tout ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui donne du mérite? Qu'est-ce qui fait que je suis réconcilié avec mon existence, etc. Il y a une manière de traduire tout ce qui a été illustré tout à l'heure dans les événements, les tentations et les consolations, ou ce qu'on a fait tout à l'heure, les bonnes inspirations du bon ange. Il y a une traduction qui n'est pas d'emblée théologique, qui est un discours de sagesse pour tous. Dire que toutes ces questions-là sont des questions éminemment individuelles, familiales, on va étendre les bénévoles et tout à l'heure le collectif, le politique, c'est réfléchir sur le lien humain. Qu'est-ce qui nous tient ensemble dans une même société? Là, la théologie a quelque chose à dire, mais ce qu'elle dit est valable pour tous, on peut la traduire autrement. Dire qu'il y a un devoir de non-abandon, on peut le fonder théologiquement, et en même temps, il y a une signification humaine profonde. Voilà, c'est ce qu'on... Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on voudrait faire comprendre. Pourquoi, là, à la fois, il y a de la théologie, pourquoi on peut s'appuyer sur sa foi, et pourquoi on peut, en même temps, traduire ou tenter de dire à tout le monde ce qu'on dit là, attention, c'est important pour construire la société, pour nous faire vivre ensemble, pour prendre soin des plus démunis, etc. Bon, voilà comment je répondrai. Oui, donc, sur le lien, la cohérence profonde, bien mourir, bien vivre, foi en Dieu, foi en l'homme, lien à Dieu, lien aux autres. Voilà. Finalement, c'est des modulations sur le même thème que nous essayons de faire. Voilà. Bon, pause. On se retrouve dans un quart d'heure. Si on peut tenir les horaires, ce serait vraiment bien. Voilà. Merci beaucoup aux intervenants de ces éclairages. Alors, j'ai découvert pourquoi certains avaient un peu froid, moi je ne le sentais pas, mais pourquoi certains avaient un peu froid, c'est que le système qui est censé pulser de l'air chaud pulse de l'air froid. Voilà. Donc c'est normal, si vous voulez. Enfin, c'est pas normal, mais j'ai compris pourquoi certains avaient froid. Donc, voilà. Donc, on l'a demandé finalement de l'arrêter, ce qui sera mieux, en comptant sur la chaleur que nous allons dégager nous-mêmes par les conférences, nos entretiens mutuels. Nous allons dégager une chaleur humaine et ça permettra de chauffer un peu la salle parce que le chauffage est en panne. Voilà. Alors, après avoir traité des aptitudes, compétences, attitudes familiales, nous allons traiter du bénévolat, qui est une manière d'ailleurs d'élargir le cercle de ce qui fait lien autour de la personne qui est malade ou en fin de vie. Donc, merci à Marie-Dominique Trébuchet d'intervenir. Tu es enseignante en théologie morale à l'Institut catholique de Paris, vice-présidente de la Société d'accompagnement et de soins palliatifs et aussi vice-présidente de l'Association des bénévoles de la maison médicale Jeanne Garnier. Donc, tu as plus que des compétences nécessaires, d'ailleurs, pour parler de ces sujets-là. Donc, merci de nous faire part de tes réflexions, de ton expérience de bénévole, d'accompagnement des bénévoles et de ce qui se dit du lien dans le bénévolat. Voilà. Merci beaucoup.
Merci, Bruno. J'ai combien de temps? Nous avons repris un petit peu plus tard que prévu.
Tu as en tout, il y a 35 minutes. Tu peux arrêter un peu avant pour qu'on ait le temps des questions. Et à la fin, on y aura aussi un temps de débat. Mais
merci. Voilà. D'accord. Merci beaucoup de votre accueil ici à Sèvres. Hein. Vraiment, c'était effectivement une grande joie de travailler ce sujet-là à plusieurs et en abordant de différents points de vue cette question de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Je vais parler du lien. Pour présenter ma contribution à cette journée sur l'humanisation de la fin de vie, en fait, j'étais partie du fait qu'auprès de la personne en fin de vie, accompagnement et soins palliatifs sont indissociables. Ils désignent une même réalité et la pratique de différents acteurs au sein de celle-ci. Donc en fait, s'ils mettent en œuvre les soins palliatifs, les soignants sont aussi les acteurs de l'accompagnement. Et de ce... Donc on ne saurait réduire l'accompagnement à la pratique bénévole. Ma proposition était donc d'interpréter aussi, à partir de ma pratique de bénévole, le bénévolat comme signe. Signe pour tous des chemins d'humanisation qu'il concourt à tracer. Alors aborder la question du bénévolat, c'est d'abord entrer dans la pluralité de discours sur un phénomène qui ne se laisse pas saisir de manière univoque. Je vais évoquer les différents registres d'interprétation du bénévolat et puis je vais m'intéresser plus particulièrement à l'apport d'une certaine sociologie qui se démarque nettement d'un discours dominant et qui s'ouvre à une réflexion sur le don. Ce que la sociologie montre de manière empirique sur le don, la théologie le fonde dans une vision de l'homme qui se reçoit d'un don premier. L'homme est ainsi lui-même un être de don. Cette impression du don en lui le façonne comme un être capable de don. Comme l'écrit Ricoeur dans son beau parcours de la reconnaissance, au lieu d'obligation de rendre, il faut parler sous le registre de l'agapé de réponse à un appel issu de la générosité du don initial. Je voudrais donc soutenir la thèse suivante, le don est humanisant, chemin d'humanisation et la pratique bénévole manifeste cette disposition humaine au don. Alors, j'ai traversé des discours. D'abord, on a coutume de commencer à parler du bénévolat à partir de l'étymologie du mot. L'étymologie nous informe sur les deux composantes, la volonté et le bien. C'est la bienveillance, le vouloir le bien qui qualifie le bénévole, et la volonté est elle-même qualifiée par la liberté. Le volontaire est celui qui agit librement. Voilà pour l'étymologie. L'histoire aussi nous renseigne, puisque l'étymologie ne suffit pas à définir le bénévolat dont la réalité multiforme s'inscrit dans l'histoire. L'histoire longue dont on vient de parler, l'histoire longue de la charité chrétienne et des vertus, histoire de la bienveillance qui dispose au bien envers autrui, histoire des vertus sociales, de l'hospitalité, de la solidarité, de la compassion dont on vient de parler, et puis l'histoire plus récente. L'histoire plus récente qui est celle du bénévolat dont la forme moderne apparaît au XIXe siècle. Le terme bénévolat ne fait son apparition que dans les années 50. Et le concept de bénévolat associatif s'est établi dans les années 80 pour désigner cette nouvelle forme de solidarité. Alors le droit maintenant, est-ce que le droit nous donne des indications sur cette réalité du bénévolat ? Le bénévolat n'est pas défini en droit français. Le Conseil économique et social en donne la définition suivante dans un arrêté de 93 est bénévole toute personne qui s'engage librement pour mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. Dans le même avis, le Conseil économique et social distingue le bénévolat informel, l'aide aux voisins quand on prête sa tondeuse ou qu'on donne un coup de main, du bénévolat formel. Ce dernier s'exerce dans une structure, le plus souvent associative, et s'il est libre au sens juridique, au sens d'une liberté juridique, il n'est pas contraint par un contrat de travail, le bénévole n'en est pas moins soumis aux règles de fonctionnement de son association qui encadre sa pratique. En résumé, on dira que le bénévole est là parce qu'il a choisi d'être là, parce qu'il a choisi librement d'agir. Ce qui définit le bénévole est la gratuité et la liberté et l'engagement moral dans une association. Pour le bénévolat d'accompagnement dont je vais vous parler, il y a des textes de référence spécifiques qui sont intéressants. Lisons ce qu'ils nous disent. Ces textes sont la loi de 99, l'article L1111-5 du Code de la santé publique et puis la circulaire du 25 mars 2008 relative à l'organisation des soins palliatifs. Pour l'accompagnement des personnes vulnérables en fin de vie, le cadre médico-légal pose les conditions d'un tel exercice aux côtés des professionnels. C'est intéressant, la circulaire dit que le bénévole agit en complémentarité du professionnel, en collaboration ou partenariat avec l'équipe soignante dans l'accompagnement des personnes. Donc leur mission fait partie intégrante des soins palliatifs. Professionnels et bénévoles ont donc en commun d'accompagner et de concourir ainsi ensemble et chacun de manière particulière aux soins palliatifs, puisque la circulaire dit, je cite, en initiant le mouvement des soins palliatifs en France, en réaction aux conditions du mourir des années 1980, les associations d'accompagnement ont rendu indissociables soins palliatifs et accompagnement. En réalité, ce lien entre soins palliatifs et accompagnement fait partie de la pratique palliative bien avant la structuration du bénévolat en association. Je dirais qu'il s'agit de l'essence même des soins palliatifs que d'être accompagnant. La circulaire attribue un rôle spécifique aux bénévoles, composé de personnes issues de la société civile et non du monde de la santé. Les associations de bénévoles sont, je cite, « garantes du lien social », on retrouve le lien, en témoignant de la solidarité humaine envers le malade et ses proches. Je poursuis ce que nous dit le droit sur le volontariat, parce que voilà, on est confronté hein, aussi à cette thématique du volontariat. En fait, il n'est pas défini dans la loi non plus, le volontariat. Seules certaines formes de volontariat sont définies. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une différence entre bénévolat et volontariat, puisque il s'agit d'un engagement dans un projet pour un temps déterminé et qui repose, lui, sur un contrat. Et le volontaire recevra une indemnisation, non pas un salaire, mais il n'est pas tout à fait à titre gratuit. Retenons pour le moment que le bénévole fait quelque chose pour autrui sans y être obligé, sans obligation extérieure et sans en tirer profit, au sens où le but de son action n'est pas d'en tirer profit directement. Il donne de son temps. On retrouve là la thématique du temps. On peut dire que le marqueur du bénévolat associatif est le don du temps, d'un temps qui n'est ni le temps de travail, ni le temps domestique, le temps familial, ni le temps de loisir. Et ici donc apparaît la catégorie du don dans le discours des sciences sociales. Le bénévolat est vu comme un temps libre solidaire, hérité de la morale sociale chrétienne, qui s'est détaché de la vertu théologale de la charité. Dans le cas du bénévolat d'accompagnement, cette dimension du temps dans le don est essentielle. Le temps donné fait entrer dans un temps qui est à habiter de manière tout à fait particulière. Alors qu'il est un temps de fin, en tout cas on le définit à partir de la fin. Les médecins, il y en a dans la salle, vous diront qu'ils ne savent pas ce que c'est que la fin de vie, alors que le législateur, lui, semble le savoir. En tout cas, ce temps peut s'étirer dans le long temps du mourir et parfois se concentrer à l'extrême. J'arrive donc au discours des sciences humaines sur le bénévolat. Le bénévolat est étudié par les sciences humaines. Pour information, la sociologie du bénévolat a à peu près 30 ans d'existence. Elle date des années 80. Et donc, cette sociologie décrit une pratique sociale. Elle s'intéresse, elle cherche à décrire ce qui caractérise le bénévole dans une organisation sociale qui est dominée par la logique du marché. C'est ça leur problématique. En fait, ils cherchent à penser, je cite, « cette démarche non rémunérée au sein d'une société mercantile ». Et puis, la sociologie analyse aussi le mouvement même du bénévolat associatif et ses ressorts historiques, caritatifs, coopératifs, syndicaux aussi, pour interpréter ses constantes et ses transformations. Le sociologue fait donc appel à des données quantitatives et des données qualitatives. Les données quantitatives nous intéressent du point de vue du bénévolat dans le monde de la santé, du bénévolat associatif. On va apprendre que 8 à 10% des bénévoles exercent leur bénévolat dans le secteur de la santé et de l'aide aux malades. On compte 350 associations aujourd'hui et environ 6000 bénévoles en soins palliatifs. On les trouve pour les deux tiers en unité de soins palliatifs ou en établissement de soins, et puis pour le tiers restant à domicile ou en EHPAD, mais aussi en prison et aussi dans l'accompagnement du deuil. De manière qualitative, les sociologues vont analyser le phénomène pour mieux comprendre, par exemple, les motivations, les postures du bénévole, et ils les interprètent de manière critique. Ce faisant, attention, on va voir plus loin, ils nous fournissent une vision qui n'est pas exhaustive de la réalité. Leur discours, dont la visée est d'abord descriptive, fournit une lecture qui n'épuise pas le discours interprétatif. En 2012, la revue Médecine de l'Homme a consacré un numéro au bénévolat dans le soin. Numéro tout à fait intéressant dans lequel on trouve un article d'un philosophe, David Doat. Il est intéressant parce qu'il nous alerte sur la domination d'un discours, d'une certaine sociologie qui interprète le bénévolat non pas du point de vue du sujet et de son engagement gratuit et altruiste, qu'il lui dénie d'ailleurs, mais comme une construction sociale. Je vous explique, avec ce philosophe, eh bien, le bénévole répond à des besoins identitaires, sociaux ou psychiques. En fait, l'engagement bénévole est décrit par cette sociologie comme le fruit de déterminations familiales et sociales. Ce qui est intéressant là, c'est que le philosophe dénonce deux choses. Premièrement, le fait que ces interprétations sociologiques sont élaborées à partir d'une rationalité scientifique et d'un présupposé anthropologique selon lequel l'être humain est foncièrement déterminé et conditionné. Et deuxièmement, ce que dénonce le philosophe, c'est que ce discours est dominant et qu'il n'y a pas moyen de penser l'action du bénévole en dehors de ce discours-là. Or, il est possible de fonder une réflexion sur l'engagement bénévole d'une autre manière, sur une autre vision de l'homme, philosophique et théologique. L'être humain est capable de dons, appelé au don, dira le théologien. Il est possible d'interpréter le bénévolat comme ce qui manifeste, ce qui est signe visible d'une réalité anthropologique profonde. Le bénévolat est vu alors comme le versant éthique d'une réalité anthropologique. Alors, on pourra dire que le bénévolat, en témoignant de cette ouverture humaine fondamentale à la gratuité, trace un chemin d'humanisation pour tous, et que la posture bénévole est une forme d'agir pleinement humaine et donc humanisante pour tous. Jean-Guilhem Xéry, dans ce même numéro de Médecine de l'Homme, se risque à interpréter la posture bénévole, d'ailleurs, comme signe d'une gratuité humaine, et son auteur de référence est Benoît XVI. D'autres auteurs sociologues, héritiers de Marcel Mauss, élaborent une réflexion sur le don qui est inspirante pour la nôtre sur l'engagement bénévole. Je m'y réfère pour approfondir et éclairer deux aspects particuliers et spécifiques du bénévolat d'accompagnement en soins palliatifs, le bénévolat comme don de temps et le bénévolat comme accompagnement. Mais avant de développer ces points, je voudrais me référer à une autre catégorie de discours qu'on a déjà évoqué, qui est celle du récit. Les bénévoles mettent en récit ce qui se passe dans l'accompagnement d'une personne humaine par une autre. Sous la forme du blog ou dans des publications de courts récits, ils donnent à entendre, et je mets des guillemets, ils donnent à entendre « ce qui circule entre nous ». Je mets des guillemets parce que j'emprunte l'expression « ce qui circule entre nous » à Jacques Godbout, sociologue, dont le travail sur le don alimente mon travail de réflexion sur le bénévolat. Ce qui circule entre nous, c'est une expression, le titre de son livre, explique-t-il, excède toute logique marchande d'échange de biens et toute logique d'intérêt ou d'utilité. On peut penser cette logique en dehors de la logique d'utilité ou d'intérêt ou d'échange. Ce qui circule entre nous désigne, sous la forme du don, du lien social qui se tisse. Ces récits de bénévoles ne s'interrogent pas sur la gratuité du don dans l'accompagnement de bénévoles, ils témoignent du sens de ce qui circule. Mais avant d'approfondir cette posture bénévole dans l'accompagnement, je voudrais m'arrêter sur l'apport de ces sociologues tels que Mauss, Enaf et ici particulièrement Jacques Godbout. Ils sortent donc de ce paradigme dominant. Le pape François dirait qu'il s'émancipe du paradigme techno-économique. Je vous renvoie à la lecture de Laudato Si au numéro 53. Il relativise cette logique de domination parce que, et je cite là Godbout, il impose à la pensée un corset qui aplatit le lien social et empêche la réflexion sur le don de se déployer. Or, on doit pouvoir déployer une réflexion sur le don. Donc, il aborde la question du don en dehors de celle dans laquelle on l'enferme communément sous l'influence de cette rationalité. Il l'extirpe véritablement de la problématique du don pur. Vous savez, le don pur, le vrai don qui n'attend rien en retour. Le don unilatéral, sans retour, sans réplique. Il peut en effet y avoir un don et un retour, dit Godbout. L'intention du don n'est pas l'intérêt. Mais il peut y avoir un retour, il doit y avoir un retour. Il doit y avoir un retour, une réciprocité. Toutefois, le don ne s'inscrit dans la réciprocité que si on sort de la réciprocité toute idée de symétrie ou d'équivalence. On constate alors que l'effort de la pensée est permanent pour se défaire de cette rationalité dominante qui nous ferait retomber dans le « Ah ben, s'il y a réciprocité, alors c'est pas vraiment un don. » Il faut ici comprendre, poursuit le sociologue, que la réciprocité ne clôt pas l'échange. Elle produit du don chez celui qui reçoit. Celui qui donne en réalité n'attend rien. Il prend le risque du non-retour. Le bénévole prend le risque du non-retour. Le risque de la relation pour elle-même, pour la relation. Et celui qui reçoit doit donc pouvoir entrer dans la relation du don. En définitive, le don amputé de la possibilité du retour ou de la réplique serait-il encore un don ? L'auteur écrit « La preuve de l'intention morale ne réside pas dans l'absence de retour. » Ben non. Qu'en serait-il en effet de la liberté du receveur que présuppose précisément la relation humaine ? Qu'en serait-il de la relation elle-même puisque le don invite à la relation ? C'est le sens de ce qui circule qui est à considérer. Avec Ricoeur, on dira que la reconnaissance n'annule pas le don. Elle le reconnaît précisément comme don dans la gratitude. Elle se situe à un autre niveau que celui de la transaction. Elle se situe dans la mutualité, car celui qui donne de son temps et qui se donne lui-même n'est pas le seul à donner. L'autre, le malade fragile, donne en retour. Notre sociologue propose une nouvelle figure, celle de l'homo donator, qui reconnaît dans l'être humain une tendance naturelle à la bienveillance et au don. Cette vision de l'homme s'inscrit dans ce qu'avec le pape François, on nommerait une contre-culture. Je vous renvoie encore à la lecture de Laudato Si au numéro 58. Une contre-culture qui, en définitive, dénie à l'homo economicus le pouvoir de dire le tout de l'homme. Il est possible de dire quelque chose de l'homme en dehors de l'homo economicus. Donc ce sociologue a cherché à élaborer un modèle basé sur le don pour montrer qu'il est possible de penser en dehors du modèle dominant et sa recherche nous intéresse car elle fournit une interprétation du réel qui postule qu'une autre vision de l'homme est possible, qu'une autre vision de l'homme ouvre des voies nouvelles pour penser le don aujourd'hui. Cette autre vision de l'homme, être de relation, n'est pas sans lien et on vient de l'entendre avec la vision de l'homme que nous offre la tradition chrétienne, dont les fondements de la création et du salut sont le don et l'universalité dans la relation. Si donc je reprends ma question du bénévolat comme signe dans l'accompagnement en soins palliatifs, du point de vue du don du temps et du point de vue de la démarche d'accompagnement, la posture bénévole se définit en regard de ce qu'elle n'est pas. On l'a entendu dans les définitions, ni soignant, ni famille, les bénévoles offrent une présence, disent les textes. Mais positivement, on pourra dire que le bénévole donne de son temps, de ce temps qui n'est ni le temps de travail, ni le temps familial, ni le temps de loisir. Il se donne en se rendant présent à l'autre, lui laissant la liberté du refus. Positivement, le bénévole est celui qui, hors de tout agir de soin, se risque. Il n'a rien à apporter. Il prend le risque uniquement parce qu'il le veut bien. Le risque particulier d'être présent au temps de l'autre, ce temps de faim si particulier qu'il s'étire et se concentre. Le bénévole est dans l'incertitude et il y demeure. Et cette incertitude n'est pas angoissante. Elle est la marque d'une relation qui laisse l'autre parfaitement libre du retour. Nul n'impose le retour dans ce moment de la vie où le rapport humain prime sur tout conditionnement social, précisément. De ce point de vue, le bénévolat à soins palliatifs crée, et je reprends là les termes de Godbout, une forte valeur de lien. Le sens du don se révèle dans ce qui circule, et ce qui circule, c'est du lien social. Et cela, même la loi le reconnaît. La seule présence bénévole fait circuler ce qui circule, avec ou sans mots. En approfondissant cette question du don du temps, je me disais combien la maxime du pape François, le temps est supérieur à l'espace, fait sens dans ce contexte. Le don du temps dans la relation, la posture bénévole, préserve de toute tentation de domination de l'espace de l'autre. Et les bénévoles savent de quoi je parle quand je parle de l'espace de l'autre, hein, qui est sa chambre précisément, dans laquelle on s'invite sur la pointe des pieds. Je rappelais en introduction le lien intrinsèque entre accompagnement et soins palliatifs. La société qui fédère les professionnels, et Bruno l'a cité, qui fédère les professionnels du soin et les bénévoles, est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Ces derniers tiennent leur identité pour une part de l'accompagnement parce qu'ils s'adressent à des personnes plus qu'à des patients. L'accompagnement, je dirais, est l'âme des soins palliatifs. L'histoire nous enseigne, je parle sous le contrôle de Patrick Verspiren, l'histoire nous enseigne que le terme accompagnement est issu de la pratique. À l'époque, au milieu des années 70, le terme est venu désigner des pratiques qui allaient à contre-courant des pratiques d'abandon des mourants et de camouflage de la mort. L'accompagnement désigne la relation humaine, précisément, qui doit s'instaurer entre l'équipe soignante et la personne malade. Être en relation est la condition même du prendre soin, dans l'éthique du non-abandon qui s'élabore alors. Le bénévole participe à l'accompagnement, il n'en a pas l'exclusivité, mais il est signe de l'inscription de cet accompagnement dans le don. Ainsi, il manifeste l'humanité profonde de cette posture humaine sans la posséder. La posture bénévole est une modalité de l'accompagnement dont nul ne maîtrise ni ne possède le sens. Le sens est dans ce qui circule, dont l'origine est immaîtrisable, puisque l'être humain est d'abord celui qui reçoit. C'est ainsi qu'il découvre le don et qu'il peut convertir sa vie au don dans l'action bénévole, qui donne visibilité au don, mais aussi à l'intérieur de son temps de travail, mais aussi à l'intérieur de son temps familial. Et de ce point de vue, le bénévole d'accompagnement sait combien son bénévolat reflue sur son existence et infuse tout ce qui circule entre collègues, entre amis et en famille. Je conclus en revenant à la fonction du récit et en citant Éric Ciat dans les préfaces d'un livre à paraître en début d'année, le livre de Véronique Comollet, dont le titre est « Toute fin est une histoire ». Cette bénévole de la maison médicale, Jeanne Garnier, met en récit, entre guillemets toujours, ce qui circule, précisément, dans ce temps. Ce qui circule de la joie, de la souffrance, de la peur, du désespoir. L'expérience d'être démuni traverse le livre. Et sans doute est-ce la clé de la rencontre qui permet que ça circule. Aussi dans la colère, aussi dans le cri, aussi dans le refus. Faisant référence à Ricoeur et à l'identité narrative, Éric Ciat écrit « N'est-il pas heureux que lorsque la camarde, la mort, enlève à l'homme le pouvoir de son expression, il se trouve un témoin pour reprendre le récit, afin que, comme disait Brassens, jamais son trou dans l'eau ne se referme. » Ainsi, le sens de ce qui circule se dévoile. Le lien contribue à la construction de l'identité du sujet humain et l'incertitude demeure. Qui donne? Qui accompagne? L'un et l'autre.
Merci. On Voilà, merci beaucoup Marie-Dominique pour cette... c'est à la fois une réflexion, une méditation. Je trouve ça un ton très nourrissant de méditation, réflexion. Voilà. Merci pour ce beau parcours sur le don. Il y a des gens donc, qui ont une autre posture et c'est parce qu'ils ont une autre posture dans l'existence qu'ils peuvent nourrir la relation, contribuer à ceux qui se circulent. Voilà, mais peut-être que ça va susciter des... ça va circuler aussi entre nous. Peut-être, voilà, on a un peu de temps pour réagir directement ou reprendre après dans le débat final. Mais s'il peut y avoir des échos, il y a des bénévoles dans l'assistance. Donc vous pouvez aussi dire ce qui vous nourrit dans le bénévolat ou comment vous recevez ça.
Première question. Alors.
Vous avez bien dit, j'ai beaucoup apprécié, que le bénévolat c'est du don du temps, du don de soi, qui n'exclut pas un retour, et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire « vous ne m'intéressez pas bon, ». Donc il y a un retour. Mais vous-même, vous devez participer un peu à l'acceptation dans une association de candidats bénévoles. Et j'entends des personnes qui ont des attentes dans la pratique du bénévolat. Alors comment vous situez-vous dans l'accueil d'un candidat bénévole quand il y a des attentes trop précises, trop déterminées, quand l'attente est très forte, et peut-être plus que l'acceptation du don? Je crois qu'il y a un problème là. Et les personnes qui, bon, après un deuil, veulent très vite être bénévoles pour bon.
Alors vous posez la question effectivement très 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 concrète. Tout ce que j'ai dit sur cette posture du don, hein, mon sujet c'était vraiment de montrer que c'est précisément pour moi un marqueur anthropologique, hein, que rend visible le bénévole dans cette posture de don. Après, les choses sont à vivre dans la réalité concrète et tout cela n'empêche pas que précisément dans l'accueil des nouveaux bénévoles, eh ben, il y ait une démarche de discernement qui se mettent en place, et tout cela se fait aussi dans la rencontre avec le bénévole, dans l'échange, dans l'écoute d'abord de cette personne qui... Alors souvent la chose a mûri longtemps, hein. Et voilà, les personnes arrivent un jour en disant, ben oui, il me semble bien que je pourrais être là et apporter quelque chose. Alors le discernement consiste précisément à, comment dire, débusquer ce qui pourrait en être peut-être d'attente trop forte, effectivement, voilà, du bénévole qui viendrait chercher à soigner quelque chose, consoler un deuil, en sachant qu'on n'élimine jamais toutes ces attentes. Jamais. On n'est jamais pur. Enfin, je veux dire, voilà, le bénévole n'est pas un homme pur de don. Il est toujours marqué de son environnement. Ce que je remettais en question, c'est précisément ce discours de la sociologie qui dit que la personne est conditionnée. Ce que je voulais dire, c'est que la personne est capable de ce choix libre, mais que quittons toute illusion de penser qu'elle n'a pas de conditionnement et pas de choses elle-même aussi à régler. Donc c'est le boulot d'écouter cette personne qui rencontre une psychologue, qui écrit un courrier de motivation et puis qui suit les étapes des premières formations pour discerner si effectivement c'est l'endroit où elle peut être aujourd'hui de manière juste avec les personnes.
Moi, je suis frappé par l'importance du bénévolat. Bon, tu as cité Mauss sur le don. Il y a aussi, en analogie avec Mauss, il y a le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, le Mauss, qui est aussi un mouvement en France, qui a repris, dont fait partie Godbout, etc. Et donc, comment tu vois justement dans la société, à travers donc, ce qui est cette forme d'accompagnement-là, il y a quelque chose finalement qui vient contester une sorte de paradigme dominant de l'utilité, tu as dit. Donc il y a une portée, alors c'est peut-être pour faire le lien avec ce que va dire Exactement. Dominique tout à l'heure, une portée extrêmement forte de ce bénévolat, de ces actes, contre finalement la domination du paradigme de l'utilité.
Absolument. Ou voilà. Oui, absolument. Et ce qui est difficile, c'est de se dégager de ce paradigme de l'utilité. Voilà, moi je crois qu'il y a une... mais c'est, Dominique va développer certainement hein, tous ces aspects-là. En tout cas, dans les textes, par exemple, précisément les textes de loi disent que les bénévoles non seulement accompagnent les personnes, hein, c'est, voilà, c'est, le don est là, mais ils, ont aussi, ils portent aussi une responsabilité sociale de communiquer sur... non seulement cette pratique bénévole d'accompagnement, mais aussi de communiquer sur les soins palliatifs. Et voilà, moi, je suis assez frappée, par exemple, à la Maison médicale Jeanne Garnier, donc l'association dont je fais partie, c'est quelque chose que nous développons énormément, et les bénévoles se forment aussi pour devenir témoins à l'extérieur, aller parler de la mort dans les collèges, dans les lycées, voilà, témoigner de cette... Et alors, les questions, moi, moi-même j'y vais régulièrement, les questions des jeunes de troisième, de première, tiens, mais et pourquoi la première question, et pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Donc, vous voyez, on retrouve toute cette question du lien, du lien social, hein, et je refais le lien avec ce qu'on disait en début de colloque sur ce double accompagnement du bien vivre et du bien mourir, hein, de cette relation à la mort, ça prend dans la famille, mais de moins en moins, parce qu'on ne meurt plus en famille et que le corps n'est plus dans la maison. Et donc, doit pouvoir aussi s'apprendre dans la rencontre avec ces personnes bénévoles.
Qu'est-ce qu'un bénévole répond quand on lui pose la question « Pourquoi vous faites ça ?»
Alors, il répond « Je fais comme si j'étais dans une classe
voilà,
de troisième. »
C'est ça, on est une classe de troisième.
Eh bien, moi, je vais vous répondre aujourd'hui, mais un autre bénévole, l'autre bénévole qui est à côté de moi, ou un autre bénévole vous dira autre chose. C'est mon histoire, parce que j'ai croisé la mort, parce que j'ai croisé des personnes qui ont été, à ce moment-là, disponibles, et que, petit à petit, ça a cheminé longtemps, et qu'un jour, j'ai pensé que je pouvais être là, auprès de ces personnes-là.
Merci. Voilà, merci beaucoup Marie-Dominique pour cette forme finalement d'engagement et de témoignage. On pourrait dire que tu as parlé du signe, c'est effectivement un signe. Voilà. Donc, nous allons poursuivre en étendant, mais finalement il y a plein de choses. Peut-être que Dominique va faire une moisson, je ne sais pas, à sa manière, poursuivre et moissonner, je ne sais pas comment il va faire. Donc, nous passons la parole au père Dominique Greiner. Tu es enseignant à l'Institut catholique de Paris, tu enseignes la morale sociale, tu es aussi rédacteur en chef au très bon journal La Croix. Donc n'oubliez pas de prendre un exemplaire, c'est gratuit, donc c'est pas utile, c'est gratuit. Voilà, c'est un exemplaire pas bénévole, mais enfin voilà, c'est... Bon, en même temps, ça fait de la publicité, mais c'est une publicité gratuite, vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est un très bon journal. Voilà. Donc... pour étendre donc les significations qui ont été déployées jusqu'à présent, Dominique va traiter de la fin de vie en institution de soins, une question de justice sociale. Le thème a été déjà, d'une certaine manière, abordé dans beaucoup d'interventions. Voilà, merci Dominique. Et puis, à la fin de ton intervention, bon, on fera un débat général sur ensemble à la fois sur ton intervention, surtout, finalement, une sorte de moisson de questions à travers les topos d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.
Voilà, merci, bonjour à tous. C'est vrai qu'avec tout ce qui a déjà été dit, j'aurais de quoi nourrir mon intervention sans avoir à faire d'apport complémentaire. Simplement, juste une petite anecdote là, sur ce que Marie-Dominique vient de dire, là, sur se libérer du paradigme de l'utilité. Bon, j'ai terminé pour le journal des diacres permanents, on m'a demandé de faire un petit papier sur l'économie dans la Laudato si, et puis la demande c'était de me dire ben voilà comment on va faire pour financer la transition écologique, voilà. Et j'étais assez surpris enfin, de la demande, ben voilà, parce qu'on veut des réponses concrètes, alors que tout le c'est un numéro sur l'encyclique Laudato si qui nous explique surtout, il ne faut surtout pas demander aux économistes comment il faut faire, parce que tout seul ils ne sauront pas faire. Mais voilà, on a besoin de réponses, hein, alors que tout le texte de l'encyclique essaye de nous déplacer, nous dire, sortez un peu d'une logique où vous aurez des réponses toutes faites aux questions que vous posez, il faut discuter, ça. Voilà. Donc on a du mal à s'en libérer, même quand on travaille sur ces textes qui nous déplacent, on a beaucoup de mal. Donc j'ai fait un texte où j'explique que je ne peux pas répondre et qu'il faut travailler autrement. Voilà, donc ce paradigme de l'utilité, oui, qui, qui nous habite, et même moi, il y a deux choses qui sont à l'origine de mon intervention. Vous savez, quand on travaille, on dit sur quoi t'aimerais intervenir. Moi, je connais rien en fin de vie, à la fin de vie. Mais ça me titillait un peu ce titre « Bien mourir ». Voilà, en éthique sociale, il y a un souci d'éthique sociale, d'éthique fondamentale que je porte. Voilà, quand on réfléchit sur des questions d'éthique, quand on travaille sur des questions d'éthique du bien commun, il faut vérifier l'articulation entre le juste et le bien. Alors, quand on me met du bien vivre, du bien mourir, j'ai envie de dire, mais alors, où y a-t-il du juste dans le mourir, dans le vivre, hein? Donc, tout de suite, cette question-là, d'où le titre de mon intervention, bien mourir, est aussi, ou doit être aussi, une question de justice sociale. Hein? Donc, il y a un enjeu, hein? Vérifier la qualité de notre éthique, de voir si nous réussissons à honorer les deux dimensions. Voilà. Et s'il y a du bien mourir, il doit y avoir du juste mourir, du juste dans le mourir. Et la deuxième. Le deuxième élément qui m'a fait accepter d'intervenir là-dessus, c'est une insatisfaction éditoriale, je le dis simplement. Et peut-être que c'est parce que nous sommes pris par ce paradigme technico-économique. Et plus d'une fois, dans le journal, nous avons écrit la nécessité de donner plus de moyens au développement des soins palliatifs. C'est vrai. Et puis dans le même temps, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Comme si, il me semble que cette position est un peu courte, c'est comme quand les médecins nous disent donnez-nous plus d'argent et on saura mieux faire notre travail, donnez plus d'argent à l'école on va régler tous les problèmes, donnez plus d'argent à la police, à la justice, voilà, comme si c'était qu'une question de moyens et qu'il suffisait de donner des moyens supplémentaires pour que tout ça se résolve. Hein. Or, il ne suffira pas d'allouer davantage de ressources à quelques secteurs de l'activité humaine pour régler nos problèmes sociaux. Et donc, ça veut dire que, et ça concerne également la fin de vie, ça veut dire qu'il ne suffira pas de donner des moyens supplémentaires au développement des soins palliatifs pour régler la question du bien mourir. Et donc, voilà, et c'est une intuition qui a été confirmée par la lecture d'un rapport que je vais évoquer dans quelques instants. Et puis deux précisions aussi sur ma manière de faire de l'éthique sociale, hein, puisque c'est aussi une contribution chrétienne, voilà comment moi je travaille. Moi, ma conception de l'éthique sociale, elle est fortement inspirée d'un théologien réformé, Arthur Rich. Et Arthur Rich nous dit une réflexion d'éthique sociale, c'est une réflexion qui essaye de réfléchir comment les institutions, qui sont toujours des institutions humaines, hein, façonnées par l'homme, comment les institutions retentissent finalement sur la vie de chacun, sur les relations de chacun avec son prochain, avec son lointain. Hein. N'importe quelle institution travaille. Je donne un exemple simple. Voilà, quand vous décidez par la législation que désormais vous pouvez vous marier avec une personne de même sexe, ça change la nature de l'institution, ça change le rapport, le regard que vous pouvez porter sur un couple de personnes homosexuelles, ça va changer le rapport que deux partenaires peuvent entretenir. Deux partenaires, ils peuvent maintenant entrer dans une dimension institutionnelle autre, et peut-être que ça permet, ça change le regard qu'une personne homosexuelle porte sur sa propre sexualité. Ah, vous voyez, ça, donc une institution, ça travaille à plusieurs niveaux, et le travail de l'éthique sociale, bien, c'est d'essayer de capter finalement l'ensemble de ces transformations qu'effectuent les institutions sociales sur les relations de soi à soi, sur les relations avec nos lointains et avec nos prochains. Et vous voyez qu'il y a une anthropologie qui est sous-jacente, voilà, où on embrasse toutes les dimensions de l'existence humaine, hein, dans cette relation à soi, dans cette relation aux autres, et dans une relation plus large à l'ensemble de la société, et nous dit même riche avec le cosmos tout entier. Donc voilà un peu ce qui détermine ma manière de regarder le réel. Et puis, voilà, l'éthique sociale, elle est préoccupée par l'institution. Et l'institution, je la définis avec Paul Ricoeur comme quelque chose qui opère de la distribution. N'importe quelle institution, elle distribue. Elle distribue quoi ? Elle distribue des avantages, elle peut distribuer des salaires, elle peut distribuer des responsabilités, des honneurs, des biens, des services, des charges, des impôts, enfin voilà, tout ça, de la reconnaissance. Une institution, ça distribue des tas de choses. Hein, et une institution de soins, ça distribue des choses. J'en ai relevé au fur et à mesure de la journée, ça distribue des lits, des repas, des services, des soins, de l'intimité, de l'entraide, des attentions, de l'écoute, de la présence humaine, des relations, des conseils. Voilà. C'est ça une institution. Alors ça ne se fait pas toujours bien, parce qu'en même temps qu'elle distribue une institution, elle peut distribuer de la violence, des frustrations, des insatisfactions. Voilà. Tout ça, ça existe aussi. Et justement, le travail de l'éthique sociale, c'est de vérifier la qualité de l'institution en fonction de ce qu'elle doit distribuer et de voir si ça se passe bien. Donc voilà un peu, moi, mes données de fondamentales qui me font regarder le réel. C'est ma pré-compréhension du réel soutenue par une conception de l'éthique, une anthropologie, une conception de l'institution. Et c'est à partir de ça que je me propose de parcourir un rapport qui est sorti il y a quelques années de l'Inspection générale des affaires sociales sur le mourir. C'est un rapport que vous trouvez sur Internet qui date de 2009 et sur la mort en institution. Et c'est un voilà qui est assez intéressant et qui interroge et qui voilà nous interroge sur la justice sociale dans le mourir. C'est une enquête qui date de 2009 qui rassemble des données un peu plus anciennes, mais on peut penser que la situation qui est décrite dans ce rapport a peu changé fondamentalement. Et puis même si des choses avaient changé d'un point de vue des chiffres, d'un point de vue législatif, les points d'attention qui sont évoqués dans ce rapport demeurent. Ce rapport, il pose la question, il aborde, il expose la question de la mort à l'hôpital. Vous savez, en 1968, il y avait à peu près 35% des Français qui mouraient dans un établissement de santé. 35% en 68, et aujourd'hui, nous sommes à 58%. Donc, c'était les chiffres de 2006, donc 58% des Français meurent à l'hôpital. 10% meurent en maison de retraite. À l'hôpital, dans quel service meurt-on ? Eh bien, on meurt essentiellement dans des services de réanimation ou de soins intensifs et continus, voilà, qui leur sont proches, et dans les services d'urgence et d'aide médicale urgente. Donc, c'est très concentré dans l'hôpital. Et ce sont des services donc, qui accueillent chaque semaine des centaines de morts. Et le rapport fait le constat que les conditions matérielles essentiellement orientés vers la technique et l'ergonomie des professionnels, ne rendent ces services ni apaisants ni chaleureux. Et finalement, ce qui est souligné par ce rapport, c'est que dans l'hôpital, où 58% des Français meurent, la mort n'est pas pensée comme une mission de l'hôpital. La mort n'est pas pensée comme une mission de l'hôpital. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui se préoccupent de la mort et de l'accompagnement des personnes en fin de vie, mais la mort, à la fois dans les textes, dans les fonctionnements institutionnels, n'est pas pensée comme une mission de l'hôpital. Donc, ils le disent d'ailleurs sur ces services d'urgence, sur ces services de réanimation. Finalement, tout ça, ce sont des services qui sont conçus en vue de la surveillance et de l'efficacité des gestes thérapeutiques. Et finalement, l'intimité, la pudeur, le bien-être des malades, l'accueil des familles, tout ça, ça passe après ces impératifs de surveillance et ces impératifs d'efficacité technique. Le rapport note que il reste que dans ces services, même si la mort n'est pas pensée comme une dimension intrinsèque de cette de l'activité, on ne meurt pas seul, on souligne l'attention du personnel réanimateur et des infirmières, un personnel attentif à tout problème. On reconnaît que les familles sont connues, accueillies, informées, parfois pendant plusieurs semaines, mais on reste quand même très insatisfait sur ce qui se passe dans la plupart des services. Et bien sûr, on évoque les soins palliatifs, où le cadre de gestion de la mort est beaucoup plus satisfaisant, mais sachant que les unités de soins palliatifs n'accueillent qu'en fait qu'une toute petite fraction des décès. Donc on était sur, en 2006, 3,2% des décès se faisaient en unité de soins palliatifs, avec des variations très importantes selon le type d'établissement. Mais quand on regarde un peu plus près ces chiffres, on s'aperçoit que la prise en charge des soins palliatifs concerne essentiellement les cancéreux, et donc 80% des malades bénéficiant de soins palliatifs ont une tumeur maligne. Et donc finalement, ce que nous dit le rapport, les soins palliatifs sont presque confondus avec le traitement final du cancer, à tel point que pendant une période, le plan cancer s'est substitué au programme de mise en place des soins palliatifs sur la période 2003-2007, comme si les soins palliatifs étaient uniquement réservés au traitement du cancer. Vous voyez un peu les spécialisations, donc une difficulté à la mort, spécialisation plutôt de la mort dans les soins palliatifs pour une toute petite partie, et à l'intérieur même des soins palliatifs, on voit une orientation plutôt vers une pathologie. Alors, ça c'est le panorama un peu global, et finalement c'est assez surprenant de voir l'importance de débats de débat sur l'euthanasie, on a l'impression que la question de la mort est très présente. En fait, il n'en est rien. Et nous dit le rapport, le débat sur l'euthanasie active et certaines affaires médiatiques, finalement, ont focalisé l'attention du législateur sur un sujet émouvant, mais minoritaire. Mais en réalité, la question de la mort est largement occultée à l'hôpital. Alors que l'hôpital se voit confier toutes sortes de missions, d'intérêt général ou plus ponctuel, la mort ne fait pas partie des missions de l'hôpital. Alors même qu'un homme sur deux, donc dans notre pays, meurt sur un peu plus d'un homme sur deux meurt sur non, il meurt dans notre pays, aucune responsabilité n'est confiée à l'hôpital en la matière. Alors c'est vrai que le décès est consommateur de ressources en temps, en personnel, en équipement. Il faut des chambres individuelles pour permettre aux gens de finir leur vie. Il faut des espaces d'accueil pour l'accueil des familles. Il faut une chambre mortuaire. Et finalement, constate le rapport, l'effort des établissements dans la prise en charge de la mort s'est concentré sur les soins palliatifs. Seule réponse globale, mais en dehors des soins palliatifs, les enjeux de la prise en charge des fins de vie sont souvent inexistants et ils sont souvent même mal compris. Mal compris. La mort demeure perçue comme un mode de sortie non désiré. C'est comme ça qu'est traitée la mort d'une manière administrative. C'est un mode de sortie de l'hôpital. Donc la mort demeure perçue comme un mode de sortie non désiré, synonyme d'échec pour le service et de mauvaise publicité pour l'établissement. Donc on ne comprend pas. Et cela se traduit dans les pratiques. Et c'est très intéressant parce que le rapport dit, finalement, on voit dans le fonctionnement, c'est un rapport qui avait vraiment une enquête qui est vraiment passionnante, la place des proches, des rites n'est pas perçu comme un enjeu majeur. La famille, l'entourage est parfois considéré comme un intervenant légitime, parfois on le considère plutôt comme une gêne, ce qui va aussi déterminer les conditions de l'accueil, de l'annonce du décès. Alors le rapport observe qu'un certain nombre de services, un certain nombre d'hôpitaux, on a une pièce de réservée au dialogue avec les familles, d'autres en revanche, et c'est plus souvent le cas, utilisent pour l'annonce du décès soit le bureau du médecin, soit encore le bureau du cadre infirmier. C'est exigu, c'est encombré, il n'y a pas d'intimité. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, c'est conditionné par le contexte et la conception de la mort que l'on a derrière. Et les cas où l'annonce du décès a lieu dans le couloir, impossible à quantifier, restent fréquents, notamment dans les services d'urgence. La mort ne fait pas partie des missions de l'hôpital, et pourtant, la mort n'en est pas absente. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant dans le rapport, où on met finalement la mort, elle apparaît effectivement comme un mode de sortie, et surtout, elle réapparaît dans la question des greffes d'organes. Jusqu'à une définition de la mort qui est liée au prélèvement d'organes. Jusqu'à une certaine confusion de la définition de la mort avec les critères de prélèvement, avec le risque finalement, de traiter le corps des mourants comme une réserve potentielle d'organes, par exemple, par des interventions périmortem, dans le seul but de maintenir la viabilité des organes que l'on convoite. C'est intéressant, parce que, vous voyez, la question c'est de savoir à qui appartient le corps du mort, ou de celui qui va mourir. Des dimensions, vous voyez, toute l'absence, finalement, ce que nous dit ce rapport, l'absence d'approche de la mort dans l'hôpital, finalement, on est en dehors de a priori là, oui, on est dans une perspective où la mort est complètement exclue, et donc effectivement par rapport à une humanisation du mourir, on a une véritable problématique qui se pose. Je continue, et puis après je vais rebondir avec ça, je vous donne un certain nombre d'éléments qui sont dans le rapport, qui moi, m'ont semblé importants pour ma question. Un autre point important, et ça va rejoindre des éléments qui ont été évoqués dans les deux interventions précédentes, c'est le rapport aux familles. Le rapport aux familles, effectivement, quand vous ne pensez pas à l'hôpital comme un lieu avec une responsabilité, une mission par rapport à la mort, eh bien, la question des familles qui accompagnent un mourant ou après le décès, eh bien, ça devient problématique. La chambre mortuaire, lit-on ce rapport, constitue une contrainte pour l'établissement, alors qu'elle assure un réel service à la famille. Et le rapport explique ceci, les familles appréhendent beaucoup la vue du défunt tandis qu'à l'heure actuelle, certains de leurs membres n'ont jamais vu de mort. Elles redoutent l'aspect, l'odeur, les suintements. Et le fait que l'hôpital assure un traitement et une présentation du corps inspirant le respect est absolument essentiel pour les rassurer. Et beaucoup d'agents mortuaires ont bien compris ce phénomène. Ils savent que cette étape constitue le dernier contact avec des familles qui se montrent reconnaissantes lorsque les choses se passent avec dignité. De ce point de vue, on ne peut que regretter le fait que trop d'hôpitaux relèguent encore souvent les chambres mortuaires dans une arrière-cour, aux confins de l'hôpital, près de la logistique et des poubelles. Mais c'est intéressant à l'entendre. Et le rapport indique aussi ceci, et je vais le mettre en lien avec un rapport qui est paru il y a un mois, que de meilleures relations avec les familles des défunts pourraient contribuer à prévenir les deuils pathologiques. Il y a une étude qu'on a évoquée dans La Croix le 3 octobre. Le CREDOC a publié une étude il y a une semaine sur le rapport des Français à la mort et au deuil. Et elle indique, cette étude du CREDOC, que sans être nécessairement pathologique, le deuil s'avère difficile à vivre aujourd'hui dans une société qui a perdu de vue la dimension sociale de la mort. Et les chiffres sont impressionnants. 42% des adultes déclarent avoir vécu un décès qui les a particulièrement touchés et être actuellement affectés par un deuil. 42% des Français estiment être en deuil. De nombreux facteurs influencent la manière dont est vécue la perte, la brutalité de la mort, un accident, une maladie aiguë, le suicide, un attentat, l'éventuelle souffrance en fin de vie, mais aussi le lieu du décès. Et l'étude indique que les décès survenus à l'hôpital sont souvent plus mal ressentis par les proches, mais on souligne aussi que l'hôpital peut aussi soulager par sa capacité à prendre en charge la souffrance du malade devenu incurable. Et donc, l'étude montre les conséquences sociales du deuil largement méconnues. 35% des personnes endeuillées ont vu leur santé altérée, notamment par un épuisement physique. 56% des actifs ont dû interrompre leur activité professionnelle. Et je trouve, on est vraiment, le fait que la mort ne soit pas pensée comme une mission de l'hôpital, ça nous revient en pleine figure autrement comme une problématique de santé publique. C'est ça ce qui est en train de nous dire, et des spécialistes nous disent, même l'entreprise doit se préoccuper aujourd'hui de l'accompagnement des personnes qui sont en état de deuil, etc. Donc c'est intéressant, on a évacué, on n'a pas évacué, parce qu'en fait l'hôpital n'a jamais été chargé en tant que tel de gérer la mort, elle n'a pas une mission par rapport à la mort. En tout cas, l'individualisation, la volonté d'une individuation de la mort a politisé fortement la question de la mort, mais les institutions, une institution comme l'hôpital, ne s'est pas adaptée aussi en fonction des nouvelles modalités de la mort où la majorité des Français meurent là. Et de fait, l'absence de réflexion globale sur la mort conduit aujourd'hui à retrouver la question de la mort d'une manière autre à travers la question du deuil. Donc avec... Qu'est-ce que... Je n'ai fait ici que dresser un rapide tableau, je savais que mon temps était compté, à partir de ce rapport, pour moi, c'est ma manière de faire face au réel. C'est une réflexion éthique qui part du constat d'un certain nombre de manquements, d'insuffisances, mais aussi peut-être de pratiques qui sont en train d'évoluer, qui s'inventent. Et finalement, tout ça, c'est pour dire que, vous voyez bien que, quand on voit l'importance de cette problématique de la mort, elle ne sera absolument pas réglée par l'attribution uniquement de moyens aux soins palliatifs. La question de la mort est une véritable problématique sociale. La question de la mort à l'hôpital est une problématique sociale que nous devons aborder dans son ensemble d'une manière globale et non pas d'une manière sectorielle. Nous ne serons pas quittes avec la question de la mort uniquement par le développement de soins palliatifs, qu'il faut continuer à développer, auxquels il faut donner les moyens qu'on leur a promis. Donc, le développement des unités de soins palliatifs est loin de régler la question de la mort. C'est une mort aussi occultée, donc dans le champ social, qui nous revient aujourd'hui à travers la question du deuil. Je crois que ça nous montre que la mort est loin d'être une chose individuelle, alors d'une manière un peu surprenante, à une époque où justement il y a une volonté de maîtrise de sa propre mort, une individualisation à travers la volonté de pouvoir décider quand je mourrai, mais on s'aperçoit que, encore plus qu'hier, qu'il y a que la mort reste une expérience sociale, Et d'ailleurs, c'est ce que nous rappellent les soins palliatifs, et que Marie-Dominique nous l'a redit, hein, l'assistance, les soins, l'assistance aux mourants débordent largement les acteurs médicaux. Il y a besoin de bénévoles, il y a besoin de faire place aux familles, et tout à l'heure, on l'a entendu avec, dans l'exposé de Catherine, hein, il y a une responsabilité aussi politique pour soutenir l'activité des familles, de les soutenir aussi, de soutenir l'activité des bénévoles, ça fait partie aussi du bien mourir. Donc la responsabilité, c'est pas simplement hein, de l'État, ou la responsabilité politique, c'est pas simplement de dégager des moyens financiers pour développer des unités de soins palliatifs, c'est aussi une responsabilité politique de soutien du CARE, de pouvoir permettre aux familles d'accompagner leurs mourants jusqu'au bout, et ça aussi, ça fait partie, c'est une question de justice sociale. Humaniser la fin de vie, pour reprendre le titre de notre colloque, donc c'est humaniser l'hôpital et c'est de lui permettre d'assumer pleinement hein, cette mission d'accompagnement de la mort jusqu'au bout. C'est faire en sorte que l'hôpital puisse assumer la mort comme une de ses dimensions de sa fonction. Hein, ce qui m'a découverte dans ce petit travail, c'est de se dire, par rapport à la question de la justice sociale, eh bien, on découvre voilà, qu'on n'est pas seul. Hein, elle ne concerne pas simplement celui qui meurt, cette question de justice sociale. Effectivement, il y a celui qui meurt, et il faut lui donner un certain nombre de moyens enfin, pour pouvoir faire ce dernier passage. Mais c'est une configuration familiale qu'il s'agit aussi, une configuration sociale qu'il s'agit de soutenir pour que voilà, les vivants puissent accompagner leurs morts jusqu'au bout. Et on a des configurations institutionnelles qui aujourd'hui ne sont peut-être pas tout à fait satisfaisantes et qui pèsent sur les relations humaines, qui pèsent hein, sur les relations entre les vivants et celui qui meurt, qui pèsent aussi entre les vivants et celui qui est mort. Et le mort aussi reste injusticiable, hein, on a une responsabilité à l'égard. Et ça nous pose des questions difficiles d'éthique sociale, de l'articulation entre l'institution de l'hôpital, entre l'institution de la famille, bon, et puis d'autres institutions associatives, etc., pour humaniser la fin de vie. Donc humaniser la fin de vie, ça suppose d'inventer cette articulation entre ces différents acteurs. Je termine simplement là tout à l'heure. Le Père Spirène a évoqué les œuvres de miséricorde. Et il y a en faisant référence à Matthieu 25, mais la septième œuvre de miséricorde n'est pas dans Matthieu 25, qui est d'ensevelir les morts. Et je me dis, voilà, dans le cadre, ça nous j'avais dit, eh ben peut-être qu'il faut qu'on se ressaisisse, c'est peut-être ça enfin l'appel qui nous est lancé. Hein. Ensevelir les morts, c'est plus simplement l'image de Toby d'aller en catimini enterrer des corps pour que voilà, ils ne soient pas laissés à l'abandon. Je pense qu'on pourrait peut-être entendre cette œuvre de miséricorde dans son sens le plus social, hein, donc effectivement d'accompagnement enfin, des mourants jusqu'au bout, avec la question de la qualité, de la fin de vie, du soin apporté au corps, de l'accompagnement des familles aussi, qui est une dimension importante du mourir aujourd'hui. Hein. C'est ça ce qui est en jeu. Donc on a parlé de l'accompagnement de ceux qui meurent, mais il y a l'accompagnement de ceux qui accompagnent un mourant. Et il me semble voilà, qu'aujourd'hui, une œuvre de miséricorde, s'il fallait actualiser la signification de enterrer les morts, ensevelir les morts, c'est d'aider, de soutenir tous ceux qui accompagnent des proches qui sont en train de mourir. Donc accompagner les familles avant, après le décès. Et je crois qu'effectivement, le fait que la question sociale du deuil nous revienne en pleine figure à travers une question de santé publique, voilà, ça devrait nous motiver à réhabiter, à réinvestir cette question, voilà, cette œuvre de miséricorde, ensevelir mes morts. Et j'avais entendu tout à l'heure aussi, Bruno Sainteau avait évoqué Saint Paul, ma mort ne m'appartient pas, on ne vit pas hein, et on ne meurt pas pour soi-même. C'est un texte qu'on a lu cette semaine dans la liturgie. Et c'est peut-être, ça nous invite vraiment à avoir une autre une vision peut-être positive de la mort. Dans l'office des lectures de cette semaine, là, pour le jour des défunts, je crois que c'était un texte de saint Ambroise pour l'anniversaire de la mort de son frère, et qui nous rappelle que la mort est un remède. Peut-être, hein, peut-être on a aussi à revisiter notre théologie de la mort, où Ambroise nous dit que la mort est un remède, c'est un don que Dieu fait à l'humanité. Ben oui, parce que c'est la mort qui vient nous délivrer de la dépravation et de la déchéance. Et peut-être, alors effectivement, ce sont peut-être des mots qui sont un peu difficiles à entendre, mais peut-être aussi que dans notre réflexion, nous avons à réinvestir dans ces termes une théologie de la mort, et peut-être en découvrir aussi la vertu positive. Et peut-être que c'est aussi une question par rapport à la question de la souffrance, pour sortir de cette espèce d'attachement que certains pourraient avoir à une théologie erronée de la souffrance, de repenser aussi la mort comme délivrance. Je pense que dans le champ chrétien, ça peut aussi faire du bien, parce que les gens en parlent aussi de cette manière-là, et que dans la tradition théologique et spirituelle, c'est bien dans ces termes-là qu'on en parle. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Dominique pour ces ouvertures, ce plaidoyer pour une 7e œuvre miséricorde d'ensevelir les morts dont tu as bien souligné la dimension sociale. Merci beaucoup pour cette lecture du rapport. Je crois qu'il y a des choses extrêmement intéressantes sur ce sujet-là. On a 20 minutes devant nous, il peut y avoir des réactions, on peut commencer autour de la table. Moi je soulignerais que dans l'approche du deuil, en fait, le deuil, on pourrait raisonner en termes de problème-solution. Pourquoi pas finalement confier le deuil à des professionnels, en nouveau un corpus de psychologues, etc., comme on fait d'habitude. Alors, dans le plaidoyer pour redire, il y a les familles, enfin les aidants naturels, etc., les familles et les bénévoles, il y a autre chose qui est dit que du rapport problème-solution, genre solution technique, quoi, finalement. La mort n'a pas de solution technique. Et le deuil exige du temps, une sorte de maturation humaine. Il n'y a pas de solution au sens-là. Donc, j'étais très sensible à ce que tu as dit autour de ça, parce que finalement, on pourrait retomber dans le... Il y a un problème, il y a une solution, quoi. C'est comme quand il y a un attentat, bon, alors on délègue des corps de psychologues. Enfin, on pourrait faire le deuil un peu comme ça, c'est-à-dire, finalement, il y a un problème social, envoyons des super professionnels du deuil qui vont accompagner les gens. Alors, c'est pas ça, quoi. Merci beaucoup de cette invitation à nous ressaisir autrement de cette question-là, finalement, et de la mettre dans la société et dans les institutions. Voilà, merci. Alors, vous allez attendre si quelqu'un... S'il pourrait y avoir un bénévole pour porter le micro, si quelqu'un peut se lever, un bénévole, voilà. Merci, c'est le même, beaucoup, merci beaucoup. Donc vous levez la main pour qu'on puisse vous rejoindre, merci bien.
Je l'ai constaté plusieurs fois dans mon environnement familial et amical que quand quelqu'un est très malade, l'hôpital dit « Ah ben maintenant, il faudrait l'envoyer aux soins palliatifs. » Et c'est ce qui, dans beaucoup de cas, s'est fait. Ma question est-ce que vous pensez qu'il faut s'orienter vers une intégration d'un service de soins palliatifs dans les hôpitaux, ou faut-il dire « L'hôpital reste un organe pour guérir ?» Quand on ne peut plus guérir, il faut aller à un autre organe, à une autre institution, le soin palliatif.
Bon, Marie-Dominique peut-être, et Patrick, oui.
Merci pour votre question. Je dis quelques mots parce que c'était une question, elle rejoint une question que je voulais poser à Dominique. Parce que précisément, il y a un enjeu aujourd'hui. Les soins palliatifs, on l'a vu avec Patrick Verspirin tout à l'heure, ils ont 40 ans. En France, il y a un enjeu aujourd'hui, c'est de passer des unités de soins palliatifs, de plus penser en termes de lieux, en réalité. Et donc de passer des unités de soins palliatifs à une culture palliative. C'est tout l'enjeu actuel de la réflexion qui est menée à l'intérieur même des soins palliatifs. Et donc, mon attention était en alerte tout à l'heure, quand Dominique disait, on ne réglera pas la question de la mort par des développements des unités de soins palliatifs. On est bien d'accord avec ça. Et donc, on va sortir de la problématique régler un problème, ce que vient de dire Bruno à l'instant. Et en réalité, l'option prise aujourd'hui, c'est vraiment de diffuser cette culture. Parce que si on a bien compris ce que sont les soins palliatifs et l'accompagnement, en réalité, ils démarrent dès le départ de l'accompagnement de la personne malade. Les soins ne sont jamais que des soins curatifs. Le palliatif commence dès qu'on se préoccupe de la personne dans sa globalité. C'est donc la manière d'accompagner, de soigner, qu'il faut certainement changer à l'hôpital. Mais alors bon, il y a une forte résistance des médecins. Patrick le disait tout à l'heure, cette loi de 2005, elle n'a pas été suffisamment enseignée, accompagnée, présentée. Et précisément, on reste encore dans du basculement de l'hôpital à un lieu où on va mourir. Donc, on voit des personnes qui arrivent en unité, précisément. Moi, je suis bénévole en unité et qui disent qu'ils entrent dans le couloir de la mort. Voilà, on entend des expressions très, 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 très dures et violentes, mais parce que c'est vécu comme ça. Mon pauvre monsieur, je ne peux plus rien pour vous, il faut aller en soins palliatifs. Voilà. Il faut lutter contre cette rupture-là.
Patrick, peut-être sur l'histoire et la vocation des soins palliatifs qui n'étaient pas de rester dans des unités.
Alors d'une part, je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas confondre la question de la manière de soigner et le lieu où les personnes sont soignées. Alors je crois qu'au départ, et pour ma part j'ai beaucoup milité pour la création d'unités de soins palliatifs, c'était absolument indispensable au départ pour qu'il y ait des lieux où se développe ce savoir-faire et des lieux pour la formation. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut que ça demeure, mais il faudrait que les soins palliatifs comme soins soient distribués dans tous les lieux, services hospitaliers et même maisons de retraite, EHPAD, où les personnes sont en train de terminer leur vie. Donc, culture palliative, si on prend ce terme, je ne l'aime pas beaucoup, mais d'accord, mais c'est ça qu'il faut développer. Je voulais dire autre chose. Non, c'est ça l'essentiel.
Merci.
Ah, je voudrais, alors là, c'est pas la question, mais réagir sur ce qu'a dit Dominique Reiner. Alors, le fait que l'accueil des grands malades proches de la fin de leur vie et donc que ce soit un lieu pour la mort et un lieu ensuite pour le soin du corps après le décès, que ce ne soit pas dans les missions de l'hôpital, noir sur blanc, alors là, vraiment, il y a quelque chose à faire.
Oui, oui, Marie-Dominique.
Voilà. Je reprends, j'étais très intéressée par ce que Dominique disait sur la chambre mortuaire et l'accompagnement à la chambre mortuaire. Tu as dit que la chambre mortuaire est une contrainte pour l'hôpital. Je vous racontais, c'est le plus bel endroit de la maison médicale, Jeanne Garnier, c'est la chambre mortuaire. Et on ne visite pas la maison sans aller à la chambre mortuaire, et c'est un véritable lieu d'accompagnement. Non seulement d'accompagnement par des bénévoles, par la famille, parce qu'il y a des salons où les familles sont accueillies, etc., mais aussi par les agents funéraires. Et l'agent funéraire qui était en poste à la maison médicale, qui a pris sa retraite il y a très très peu de temps, m'a énormément appris sur la manière d'accompagner. Quand il vient chercher un corps mort, le corps mort n'est pas caché quand il sort de la chambre, le visage est découvert, et donc il y a un accompagnement, les soignants accompagnent jusqu'à l'ascenseur, le bénévole s'il est là aussi, la famille, donc il y a un accompagnement de la personne, et puis ensuite, Pierre prenait l'ascenseur et il parlait à la personne, « Allez monsieur, on y va !» Et non mais voilà, donc cet accompagnement, vous voyez, ce que je veux dire c'est que ce qu'on est en train de pointer comme problématique sociale, voilà, précisément, ces pratiques nous enseignent. Ces pratiques nous enseignent. Et cet homme qui a pendant 20 ans à accompagner ces personnes décédées, enseigne. Voilà, c'est la pratique aussi qui nous façonne. C'est pourquoi je dis, nous soignants, bénévoles, nous sommes aussi formés par ces personnes-là.
Est-ce que tu pourrais du coup détailler, parce que en fait on a peu évoqué, on peut dire soutenir les familles, mais soutenir les familles, c'est donner aussi des mots, des rites, des attitudes, des gestes. C'est-à-dire en fait, la force des religions, des sagesses, on pourrait dire globalement, qui accompagnait les personnes
Il y avait des pratiques, c'est-à-dire des manières de se tenir, on dit des choses, on chante, on se tient d'une certaine manière. Mais comme ça s'est perdu d'une certaine manière, même pour d'ailleurs pour les chrétiens, on pourrait dire, voilà. Alors du coup, est-ce que aussi accompagner les familles, c'est pas aider à trouver des paroles, des manières de faire? Ben, vous en avez plein chez vous, des rites, vous avez des catalogues de paroles, etc. Vous avez des choses.
Non, mais des catalogues de paroles, je sais pas, mais effectivement, il y a du rite qui se construit.
Paroles, oui, voilà,
oui, il y a du rite qui se construit, effectivement. Voilà, tout à l'heure, Catherine disait que la famille est le lieu où on apprend la proximité du corps, la caresse. Voilà, donc le bénévole est effectivement, inscrit ces gestes aussi là et prend, est un accompagnateur des familles aussi. J'ai peu insisté, Dominique disait, il faut insister et il faut accompagner aussi les familles. Je pense que le bénévole, et les bénévoles diraient qu'ils accompagnent au moins autant les familles que les personnes, et voilà, il se construit, il se reconstruit quelque chose. Il y a des rites qu'on accompagne. Alors, les grandes sagesses ou les religions sont encore présentes, hein, au travers précisément des familles, et des choses se passent aussi les familles s'accompagnent aussi les unes les autres, hein, et effectivement des rites secrets. Alors, il y a un rite particulier à la maison médicale. Vous savez que donc, c'est une maison qui est d'origine chrétienne, et il y a une chapelle dans la maison, mais cette maison accueille et met en lien aussi avec d'autres religions, d'autres pratiques, hein, religieuses ou philosophiques. Mais il y a une messe tous les trimestres, si mes souvenirs sont bons, tous les trimestres où un courrier est envoyé à tous les proches qui ont perdu quelqu'un dans les 3 mois précédents et viennent à cette célébration des chrétiens, mais aussi beaucoup de personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette religion-là, mais qui viennent participer à ce rite qui est... Alors, on retrouve la question de monsieur tout à l'heure, qui est spécifiquement chrétien et pas mais, et qui est ouvert à tous et qui accueille toute souffrance. Et donc... Voilà, il y a un rite, effectivement, un rite de la lumière où chacun peut continuer à accompagner la personne.
Est-ce que peut-être, Dominique, comme observateur, tu peux parler de l'évolution, par exemple, de l'accompagnement, les pompes funèbres générales, qui ont fait un énorme travail, d'ailleurs, avec des religieux, des catholiques, qui ont beaucoup travaillé ces questions-là, précisément pour dire remettre du rituel dans pour des gens qui n'en ont pas. Enfin, ils ont beaucoup travaillé, moi je vais suivre un peu ça...
Je ne suis pas spécialisé à la question, mais le rapport de l'IGAS souligne bien que la dimension rituelle et cultuelle est sous-évaluée. Hein. Donc, alors, on dit bien qu'il y a des lieux où ça marche, enfin, où l'aumônier a son lieu, où l'aumônerie. Enfin, mais d'une manière générale, c'est très très peu. Ça ne fait pas partie de la culture de base, quoi. Hein, donc c'est plus des pratiques locales en fonction de la personnalité de responsables d'hôpitaux, de médecins, de personnel soignant. Et moi, ce que je voulais dire, c'est vrai, par rapport à la question de la justice sociale, on voit bien que la question de l'accompagnement, on voit bien que c'est une question d'architecture, c'est une question d'un certain nombre de moyens. Finalement, les conditions extérieures vont aussi déterminer la capacité de développer un certain nombre de pratiques d'accompagnement. Le cadre que l'on offre, et donc le fait qu'on ait pensé que, quand je construis un hôpital, de penser aux conditions qui vont permettre ensuite l'émergence d'un certain nombre de pratiques. Et donc ça demande effectivement de se projeter assez en avant et d'avoir intégré la mort comme une dimension importante de la vie de l'hôpital. Hein, parce que c'est plus simplement, il y a une culture palliative, mais il y a quelque chose encore de plus fondamental que l'on accepte que la mort fasse partie des missions de l'hôpital. Et tout ce que ça implique, effectivement, on a une vision large à avoir sur la vie, sur le soin, le soin qui intègre cette dimension de la mort.
Patrick, c'est son écho.
Alors, il faut reconnaître que c'est sans doute très, très difficile. Je me souviens des réflexions du professeur Scherer, ça devait être en 1987-1990. Lui Bon, il était réticent aux soins palliatifs. Bon, c'était un cancérologue hématologue. Il était ouvert. Il avait fondé une association pour qu'on parle de la mort dans la société, pour transformer la société, etc. Mais il disait, dans un même service, c'est quand même très difficile d'aller soigner un malade très malade, mais on va espérer le guérir avec des prouesses, donc on va vraiment se mobiliser pour essayer de le guérir. Et le lit à côté, c'est quelqu'un qu'on va soigner en disant on va bientôt mourir et donc on va veiller à son confort. Il dit, cet alliage dans le même service est quelque chose de difficile. Et en vous écoutant tout à l'heure, je me disais, ben, en service de réanimation, alors là, c'est vrai que ça doit être difficile. Donc il faut reconnaître cette difficulté de faire coexister la grande technicité de la médecine actuelle et puis l'accompagnement, finalement, prenant son temps, etc., faisant attention aux émotions. C'est pas facile.
Catherine, peut-être ?
Arriver à récupérer, voilà. Oui, pour rebondir immédiatement, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une gestion de... en se positionnant vis-à-vis. Pour moi, c'est très différent quand on est... pour avoir vécu d'être médecin et de ne plus l'être. Il y a une phase où on est extrêmement mal à l'aise parce qu'on est dans une autre posture quand on visite et on culpabilise de ne pas être en posture active. Je pense, oui, hein, voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça qui n'est pas correctement géré quand un certain nombre de gestes de technicité médicale active ont une certaine violence consentie pour aboutir à du résultat, et que c'est, du coup, ça souligne quelque part le manque par rapport à une posture qui demanderait du temps, de l'accompagnement, enfin voilà. Et donc c'est extrêmement culpabilisant, je pense, de vivre les deux dimensions. Mais ce que ça veut dire par derrière, ce que je voulais rajouter, c'est que ce qui, moi, me semble difficile actuellement dans le tournant qu'on veut essayer de prendre, effectivement, de passer du soin palliatif à une culture palliative, c'est qu'il suffit de regarder la différence d'organisation dans un service de soins palliatifs et dans des services hospitaliers aujourd'hui, pour repérer qui manque les temps de réunion d'accompagnement d'équipe, etc. Et puis d'un seul coup, de réaliser qu'actuellement, il y a un turnover des équipes infirmiers, etc., qui fait qu'on n'a plus d'équipe fixe, et que finalement, la manière dont a évolué le système hospitalier actuellement est complètement dissolvant de toute l'expérience, par contre, pratique d'accompagnement des équipes qui s'est mise en soins palliatifs. Et donc, on comprend les résistances et la difficulté de mettre en place. Et c'est donc, à mon avis, c'est là que la manière de bien mourir et la manière de bien vivre ont à voir. Il y a une manière de penser le travail de soins, j'allais dire, entre guillemets, dans le curatif, c'est tout à fait artificiel, ces séparations, qui est à penser. Hein, et qui n'est pour le moment pas mis en place. Et puis alors, simplement une annexe, moi je serais curieuse de voir actuellement, quand notre société réorganise maladroitement, avec toutes les arrière-fonds qu'il peut y avoir, le deuil dans certaines circonstances, que sont les attentats, que sont etc., où d'un seul coup il y a des manifestations plus ou moins spontanées et régulées du deuil, qui sont en train de se remettre en place dans nos sociétés, je pense que ça aussi, ce serait un lieu de travail et d'analyse, parce que c'est des choses qui s'expriment actuellement et qui sont, en plus, qui s'expriment de manière sociale, qui recréent du lien à partir de ça, qui sont tout à fait inédites et qui seraient vraiment à travailler, parce que je pense que c'est quelque chose de, effectivement, beaucoup plus global, voilà, du travail sur le lien social est de réintégrer une vérité qui se dit, d'une expérience qui veut se dire publiquement, alors que, j'allais dire, si la mort était cachée, et en même temps dans les médias, le deuil, ces derniers temps, était caché. Enfin, vous êtes prié de finir votre crise de deuil assez rapidement pour être... Enfin, voilà, hein. Or, ça, c'est en train de se remonnayer différemment. Et donc, ça, c'est un signe qu'il y a un réel travail actuellement dans la société qui se cherche.
Tu veux intervenir, Marie ?
Oui,
Je voudrais réagir à ce que vient de dire Patrick Gaspiren, puis à la fois ce que vous venez de dire aussi tous les deux sur finalement cette espèce de choc et peut-être d'impossibilité de faire cohabiter une technique biomédicale formidable, omniprésente, avec un accompagnement qui prend du temps. Je prends l'exemple des soins palliatifs en néonatologie. Ce sont des choses qui se sont mises en place à l'initiative des familles, à l'initiative des mères. Vraiment une pratique qui se met en place, certes pas partout, pas dans tous les services de néonat, mais dans certains lieux, il y a un travail de coopération qui se fait entre les parents, entre des associations, puisque maintenant les parents se sont fédérés aussi en associations, et puis entre les soignants qui ont appris des parents que cet enfant qui naissait et qui allait vivre quelques minutes, quelques semaines ou quelques mois, c'était la vie, il était vivant, et qu'on allait accompagner cette vie jusqu'à la mort, et que la violence aurait été précisément de le penser comme mort, avant sa mort, et non pas comme vivant, jusqu'au bout. Voilà, il y a un gros travail qui se fait. Isabelle de Mesrac, qui est à l'origine de cette association à Lille, fait un énorme travail avec les médecins. Donc je me dis, certes, l'institution elle-même doit changer, mais par des initiatives personnelles qui arrivent à changer des pratiques, que l'institution va pouvoir elle-même s'adapter.
Merci. On va prendre une dernière moisson de questions, puis on verra comment y répond. Merci.
Une question pour Madame Trébuchet. Peut-être pouvez-vous nous partager un peu de ce que vous vivez, de ce qui circule entre bénévoles et soignants dans les différents temps de présence du patient en fin de vie, avant sa rencontre, pendant la rencontre et après son décès. Donc bénévoles, soignants.
On va prendre s'il y a d'autres questions. Vous ne partiez pas ici sans avoir posé vos questions. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est magnifique. Ça. Les doigts se lèvent. On va dépasser un petit peu le temps.
Qu'est-ce que l'Église apporte pour les personnes qui sont endeuillées? Et en plus, maintenant, pour les enterrements à la campagne, ce sont souvent j'ai plus des prêtres qui servent les enterrements, ce sont des laïcs.
Merci. Prenons toutes les questions.
Moi, c'est pas vraiment une question, c'était plus une remarque. Je viens de finir une école d'infirmière, et c'est vrai que je pense qu'un des enjeux aussi, c'est vraiment la formation des personnels et directement dans les écoles, parce que nous, on est très peu formés justement sur la fin de vie, sur la mort, sur comment réagir, prendre en charge les familles, et on découvre ça au fur et à mesure de nos stages, si on a entre guillemets la possibilité de participer à ces accompagnements et si on en a la volonté, parce que déjà, si les soignants ne sont pas formés, quand ils se retrouvent face à ces situations, ils sont incapables de gérer cette fin de vie. Et du coup, l'humanisation est rendue impossible, mais même en dehors du côté chrétien. C'est moi, personnellement, en école d'infirmière, on m'a jamais appris même la toilette mortuaire. C'est quelque chose qu'on n'évoque pas du tout. Et moi, je l'ai appris une fois. Enfin, je l'ai vu une fois en stage pendant ma première année, mais je serais incapable, alors que je suis diplômée, de prendre en charge une famille endeuillée.
Si, juste en dessous, voilà. Oui,
oui, je suis intéressé par le lien que vous avez souligné, M. Grenier, entre la justice sociale et l'humanisation des hôpitaux. Je voudrais savoir comment vous voyez le solutionnement ou la résolution du conflit qu'il y a actuellement entre la Cour de justice d'Annecy et le CHU de Reims. Merci.
Ouais, bon. Merci. Alors, on va y répondre. On a dépassé un petit peu, mais on peut répondre si chacun veut prendre une question ou sa manière.
Quelques mots sur la formation. Je réponds à l'infirmière qui témoigne effectivement de l'insuffisance de la formation. Je pense qu'il faut se réjouir de ce que la loi Claeys-Leonetti insiste beaucoup sur le développement de la formation. Donc voilà, ça c'est un point de la loi. Les médias en parlent peu parce que ça fait pas le buzz, mais voilà, il y a beaucoup d'avenir, semble-t-il, vers la formation. Et d'autre part, je vous disais tout à l'heure, on va dans les classes de 3e et de 1e, mais aussi, on va aussi dans les IFAS et les IFSI.
Patrick, peut-être soit sur Lambert, soit sur l'accompagnement du deuil dans l'Église.
Deux remarques. C'est vrai qu'il ne suffit pas de donner de l'argent pour les soins palliatifs pour améliorer de beaucoup la mort à l'hôpital. D'autant plus que cet argent est souvent donné, il est très bien utilisé, mais il est utilisé pour d'autres objectifs que le développement des soins palliatifs. Bon. Donc l'argent ne suffit pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout de même cette dimension très importante, je rejoins, de la formation du personnel. Alors la formation des médecins au soulagement de la douleur, la formation des médecins, des infirmières et des psychologues à la relation avec les grands malades, c'est quand même quelque chose de très important. Et je crois qu'il faut beaucoup militer pour le développement de cette information. C'est inscrit dans la loi, mais il faudrait que la loi soit appliquée en ce domaine. Alors, quelques remarques sur les funérailles qui sont désormais souvent animées par des laïcs. Eh bien, je trouve qu'il y a des laïcs qui sont, bon, est-ce qu'ils ont passé beaucoup de temps dans les formations, je ne sais pas, mais il y a des laïcs qui sont disponibles pour donner du temps, pour aller voir les familles, pour ne pas présider les funérailles n'importe comment. Et je connais des laïcs qui font ce travail d'animation de la cérémonie des funérailles peut-être beaucoup mieux que des prêtres. Alors il n'y a pas le prestige du prêtre, mais je pense qu'il y a des laïcs qui font très très bien ce travail d'accompagnement dans les funérailles.
Je peux rajouter un petit mot, c'est comme plein de missions d'église. Normalement ça devrait être toute la communauté qui porte, et il manque probablement un rituel, j'allais dire au niveau paroissial ou autre, où en même temps toute la communauté est invitée à porter cette solidarité, et en même temps où les personnes qui ont une formation spécifique sont envoyées, visiblement, sont visibilisées, ce qui permettrait de les rendre effectivement porteurs pour tout le monde de cette mission ecclésiale, et ce qui en même temps solliciterait l'ensemble de la responsabilité de la communauté et donnerait plus d'assurance sur ce point-là. Et en même temps, on peut comprendre, c'est probablement paradoxalement pour ceux qui sont les plus loin de l'Église, je veux dire, et dont l'image de l'Église, c'est le prêtre ou la religieuse vue à la télé, qui eux vont à ce moment précis du deuil souffrir de l'absence de la représentation institutionnelle parce qu'ils ont cette image-là. Donc il faut peut-être, je ne sais pas, bon, ça, après ça se joue sur des rites, sur des manières d'être habillé, etc., hein, qui sont pensées dans les différents lieux pour justement maintenir cet aspect rituel.
On peut souligner aussi que le deuil n'est pas accompagné seulement au moment de la célébration des obsèques,
oui,
mais il y a des messes régulières, enfin des initiatives aussi pour réintégrer les personnes qui vivent un deuil dans la vie de la communauté. Donc c'est l'invitation à certaines eucharisties, etc. Donc il y a aussi une manière de ne pas isoler ces personnes-là juste le jour où on lit les obsèques, mais en fait de les remettre en communauté, en quelque sorte, pour remettre finalement du lien et que ce qui leur est arrivé touche la communauté aussi dans son ensemble. Je trouve que ça, c'est très important. Bon, je ne sais pas si on peut répondre, à mon avis, non. Enfin, sur le cas de Vincent Lambert, parce que c'est un peu compliqué, sauf
oui,
si Patrick
veut
dire une petite chose, mais voilà, je crois que c'est... Il nous faudrait un peu de temps pour déployer ce cas-là, à moins que Patrick veuille en dire un petit mot, mais moi, il me faut du temps pour répondre, je ne peux pas répondre comme ça en 3 minutes.
Combien ? 30 secondes ?
30 secondes.
45 secondes ?
30 secondes.
Eh bien, ce n'est pas possible.
Eh bien, 45.
Non, je crois.
Ouais.
Passer peut-être quelques minutes après la levée de la séance,
ouais, si vous voulez, je vais
avec la personne qui pose la question et peut-être quelques autres, mais non, c'est un cas très,
très
difficile,
embrouillé, oui,
très embrouillé, très douloureux, et puis tout le monde est très embarrassé. Et si précisément rien ne se passe, c'est que tout le monde est très embarrassé. Et ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression que c'est la dame médecin qui avait pris l'initiative de l'arrêt de la première fois de l'alimentation, qui est maintenant en responsabilité, et je trouve que justement, elle trouve les choses très difficiles.
Bon, voilà. En 45 secondes, on ne peut pas dire davantage.
Écoutez, un très grand merci, un très grand merci aux intervenants, à vous qui êtes là. Merci aussi de témoigner par votre présence. Il y a des gens qui accompagnent, il y a des médecins, il y a des gens qui réfléchissent. Voilà, je crois qu'on a entendu un certain nombre de choses qui peuvent nous encourager nous-mêmes à accompagner, peut-être aussi à mieux vivre, mieux mourir, je ne sais pas, mais en tout cas à mieux vivre sous l'horizon de la mort. Voilà. En tout cas, bonne suite à vous et un très grand merci aux intervenants. S'il y a des personnes qui ont besoin d'attestation de présence, on peut en donner. Et puis aussi, comme on vient de parler de la gratuité et du don, il y a c'est gratuit, enfin, en sortant, vous pouvez mettre dans les troncs, si vous voulez, des choses qui nous aident à organiser ce genre de choses. Voilà, merci. Et prenez les journaux La Croix en sortant.